Alors bonsoir à toutes et à tous. Ce cours il a beaucoup de mérite. D'abord c'est le dernier de l'année. Et en plus que normalement je n'aurais pas dû être là, mais vraiment Hachem il a aidé beaucoup pour que avec les compagnies aériennes pour que le cours puisse se faire. Mais bon Hachem. Alors on va essayer d'être à la hauteur de l'aide d'Hachem. Il faut arriver à comprendre une chose. Quand on parle des rêves de quelqu'un et du fait d'essayer d'aller au bout de ses rêves, qu'il y a une notion qui est un peu abstraite, qui est difficile à comprendre, c'est la relation qui existe entre le rêve et la prière. Nous, on a l'habitude de penser que quand quelqu'un dort, il rêve, et quand il est réveillé, il rêve quoi? Alors qu'est-ce qu'on fait deux dimensions. On fait une dimension réelle qui s'appelle d'être réveillé, d'être conscient, puis après on est fatigué, on va dormir, et quand on dort, on pense à des choses, on appelle ça le rêve. C'est comme ça qu'on pense. Alors en général, le rêve, c'est un peu la deuxième phase du miroir. Comme s'il y a quelqu'un, il est là, il existe, il est là, et puis il y a le miroir, et puis de l'autre côté, il y a le reflet. Alors quelqu'un, il se retrouve de l'autre côté. Maintenant, le rêve, a priori, c'est juste un refouloir, c'est-à-dire les choses qui ne sont pas vécues, ou qui sont mal vécues, ou alors qui continuent à exister à l'intérieur du rêve. Mais quand on essaie d'interpréter le rêve, quand on essaie de comprendre le rêve, alors on va essayer de faire avec les éléments qu'on a dans le réel. C'est-à-dire comment ça s'est passé, le stress qu'on a, les angoisses qu'on a, les peurs qu'on a. Et après, on demande à quelqu'un d'expliquer le rêve. Comme ça, c'est marqué que le rêve, il va d'après la bouche. Ça veut dire que ça va dépendre de l'interprétation qu'on va donner du rêve. C'est pour ça que la Gemara, elle dit, quand on fait un rêve, c'est bien d'aller voir quelqu'un qui nous aime, parce qu'il va l'interpréter en bien. Parce que s'il l'interprète en mal, ça va se terminer mal. Alors nous, on dit, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que on parle bien sûr des rêves qui nous intéressent, c'est-à-dire le rêve qui est prémonitoire. Parce qu'il y a trois catégories de rêves. Le rêve du début de la nuit, comme ça il explique le Maharsha dans Brachot. Le rêve du début de la nuit, en fait, c'est tout ce qu'on a vécu dans la journée qui ressort. Le rêve du milieu de nuit, en général, c'est les rêves de Yetzer Hara, c'est des rêves obscènes. C'est-à-dire, pour les hommes, c'est un ange féminin qui donne des mauvaises pensées. Et pour les femmes, c'est un ange masculin qui donne des mauvaises pensées. Et le troisième rêve, le rêve du matin, le rêve juste avant le réveil, c'est le rêve prémonitoire, c'est le rêve prophétique. D'accord. Bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui voudraient que le deuxième rêve soit le rêve prophétique, mais c'est pas toujours le cas. Donc c'est quoi l'idée? Détendez-vous. Donc c'est quoi l'idée? C'est qu'une personne, elle va rêver de quelque chose la nuit, et c'est un message qu'on veut lui donner pour la journée. On parle du rêve prémonitoire. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un est sur cette terre, on a déjà expliqué ça plusieurs fois, quand quelqu'un est debout, en vérité son corps physique il s'arrête là, mais en vérité son corps, entre guillemets, nishmatique, il continue. Ça veut dire que la neshama remplit le corps, elle traverse les sept cieux, elle traverse les 10 dimensions spirituelles au-dessus, les sphirotes, et jusqu'à la racine des neshamot qui est en face, en dessous du trône céleste, du Kissé HaKavod. Là-haut, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le Beddin Shel Ma'ala, le Beddin d'en haut. Donc ça veut dire qu'en vérité un homme, il est en haut et en bas. Ça va? Maintenant, quand on est réveillé, on dit la majorité de la neshama, elle est en bas, dans le corps. Quand quelqu'un s'endort, la neshama, elle monte, et on laisse dans le corps le minimum de neshama. C'est pour ça qu'on dit que le sommeil, c'est un 60e de la mort. Le cœur se ralentit, on ne peut pas réveiller quelqu'un en plein sommeil, c'est dangereux. Parce qu'en vérité, la vie, c'est-à-dire la neshama, c'est la vie, elle n'est pas là, elle est en haut. On laisse le minimum des fonctions vitales pour que la personne, elle survive. Donc ça, a priori, c'est quand on dort. Mais il y a aussi un principe. C'est que la sensation qu'on a dans le rêve, c'est quoi, hein? C'est que quand la neshama elle est en haut, on dit elle monte pour deux raisons. Pour étudier la Torah et pour prendre des forces. Maintenant Hachem, à ce moment-là, il passe un message à la personne. Le message, il redescend avec la neshama, il repasse par le cerveau. Et dans le cerveau, la fonction imaginative, elle fabrique un scénario pour exprimer ce que la personne a ressenti dans le message. Ça va? Ça va. Le problème, c'est quoi? C'est que 90% du scénario, c'est des bêtises, elle dit la Gemara. C'est-à-dire que c'est comme dans un film, on met plein de détails, on met une intrigue, on met des histoires, on met des cascades, on met des décors, mais en vérité, le message, il dure une seconde. Le but du message en scène, c'est une seconde. Ça, à l'époque, on avait fait le cours sur le rêve ici ou non? Je m'en rappelle plus. Je vous donne un exemple, c'est comme ça, c'est comme un metteur en scène, il veut faire passer une idée. Une idée très 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 riche, c'est la déception d'un enfant qui découvre que son père n'est pas son père. Alors en vérité, le film il dure 2 heures, c'est un truc qui se passe au Moyen-Âge, avec des décors extraordinaires, avec des histoires d'amour, avec des cascades, avec des combats, oui. Et à un moment, vers la fin du film, on voit l'enfant qui monte un escalier, dans le noir, dans une tour, il arrive en haut, il ouvre la porte, et au moment où la lumière sort de la pièce éclairée, parce que lui il est dans le noir, et lui éclaire son visage, on voit dans la brillance de ses yeux qu'il a découvert que son père n'est pas son père. D'accord ? Ça, c'est ça le but du metteur en scène. Et il fait le film. Et il y a des milliers de gens qui vont voir le film. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il va voir, il interroge les gens. Alors, comment vous avez trouvé le film ? Oh, les cascades extraordinaires. Oh, la vedette principale, elle est vraiment magnifique. Oh, l'intrigue extraordinaire. Oh, les décors extra. Et il y en a un qui lui dit, moi, ce qui m'a touché, c'est au moment où l'enfant, il ouvre la porte, et on voit dans la brillance de ses yeux qu'il a compris que son père n'est pas son père. Ah, il dit, ben, c'est pour ça que j'ai fait le film. Maintenant, l'exemple, c'est pareil. Un homme, il fait un rêve. Le rêve, c'est quoi ? Un message d'Hachem. Maintenant, le problème, c'est que quand le message, il redescend dans le cerveau, comme ça il dit le Rambam, l'influence du cerveau, la fonction imaginative, elle fabrique tout un scénario, toute une histoire, avec des milliers de détails qui n'ont aucun intérêt. Et à l'intérieur, il faut retrouver quel était le message d'Hachem. Mais il est perdu à l'intérieur de toute une histoire, de toute une intrigue. Des fois le rêve, on dirait qu'il dure 3 heures, ouais, avec des rebondissements, même s'il a duré une seconde, dans la tête, en réel, mais dans la tête, il dure 3 heures. C'est quoi l'idée ? C'est ce que dit la Gemara. Elle dit, c'est pas un rêve sans dvarim betelim, sans bêtises. Ouais. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de choses. Après, il faut être capable de prélever. Maintenant, ça, c'est quoi ? C'est du côté de celui qui rêve. Maintenant, celui qui entend le rêve, alors si on dit que le rêve, c'est une prophétie, alors celui qui interprète le rêve, la personne à qui je raconte le rêve, est-ce qu'elle, elle le perçoit ? Elle le comprend psychologiquement parce qu'elle est intellectuelle, elle est psychologue, elle me connaît bien et elle sait que ça correspond à ça, oui. Ou alors non, même l'interprétation du rêve chez la personne qui l'interprète, c'est aussi une prophétie. Vous avez compris la question ? Attendez, mais 2 minutes, je viens d'arriver. Je répète, non, c'est une chose très fine. Donc il faut bien réfléchir. Encore une fois, moi, je fais un rêve, d'accord ? Maintenant, ce rêve, je me demande, est-ce qu'il est prémonitoire ou il n'est pas prémonitoire ? Est-ce que c'est un rêve qui vient pour annoncer l'avenir ou non ? D'accord ? Maintenant, si vous allez me dire, mais comment un rêve, il peut annoncer l'avenir ? Bon, je vous dis, soit c'est que Hachem, il envoie un message, soit aussi, c'est parce qu'on dit que la Neshama, quand la personne, elle dort, elle monte par différentes couches. Il y a une couche qui s'appelle la matière, il y a une couche qui s'appelle le Mazal. Maintenant, dans le Mazal, le système de Mazal, c'est quoi ? C'est en fait, c'est un peu le gestionnaire de la matière, le gestionnaire de l'événement. Maintenant, pour qu'Hachem organise ce monde, il est obligé qu'il y ait un système de gestion de la particule et de la masse de particules et de la réalité. C'est-à-dire qu'un événement, il peut être préétabli à l'avance. C'est pas très grave. Si quelqu'un il va dire, ah mais alors, tout est déterminé. Non, on détermine les décors, on détermine les événements, mais on ne détermine pas la relation que tu vas avoir avec. Je sais pas si vous me suivez. Quelqu'un, on a déterminé qu'il va faire telle rencontre. Maintenant, il peut être bien et l'épouser, c'est la seule la femme de sa vie. Ou alors faire des gaffes et draguer et profiter et la jeter et rater son zibouk. L'événement, on crée l'événement. Maintenant, si l'événement il est créé à l'avance, maintenant et il est inscrit, on va dire, dans le schéma électronique de la matière, comme c'est, par exemple ce métal, là vous le voyez là, vous le voyez ? Oui, non ? Non ? Vous le voyez pas ? Si vous le voyez pas, il faut acheter un chien. Vous le voyez ? D'accord. Donc ce métal, il existe. D'accord ? Maintenant, au niveau de la matière, c'est du métal. Mais si on le prend au niveau de l'énergie, oui, de l'énergie pure, en vérité, il est invisible. Ça s'appelle la structure énergétique de la matière. Maintenant, pour que ce métal puisse rester un morceau de métal, il faut qu'il y ait une espèce de cohérence dans l'espace-temps de la structure énergétique de cette matière. Ce qu'on appelle la durée, la perpétuité, pour ça que ça dure. D'accord ? Maintenant, quand ça se transforme, c'est parce que la structure, elle n'a pas été adaptée à un temps, elle a été adaptée à un temps très court. Par exemple, comme la graine, elle devient une tige, la tige, elle devient une feuille, la feuille devient une fleur, la fleur, elle donne un fruit. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans la trajectoire de transformation de cette particule, oui, elle a été préétablie pour qu'elle passe de la graine au fruit. Ça vous dérange pas ? On appelle ça en français le mazal, en hébreu. C'est ça le mazal. Cet argent-là, il va partir là-bas, il va partir là-bas, il va arriver ici. Cette marchandise, elle va être fabriquée là-bas, elle va arriver chez ce monsieur, parce qu'il a eu l'idée, on lui a envoyé l'idée, après il a eu les moyens, la banque a suivi, et le client il a acheté. C'est quoi la trajectoire ? Maintenant, étant donné...
En tout cas, j'essaie de comprendre ce que vous dites,
ouais.
Mais je me pose la question, combien vous pensez que le rêve est une élaboration du passé, combien c'est une projection du futur ?
Alors, je vous dis les choses. Il y a, en vérité, ces 3 catégories de rêves. Maintenant, il faut dire la vérité. Les 3 quarts des rêves, ne sont que des ressentis du vécu. C'est-à-dire que quand quelqu'un vit quelque chose, à chaque fois que vous vivez quelque chose dans la journée, c'est comme si vous avez des capteurs, d'accord ? Par exemple, tu as vu la synagogue, tu as rencontré quelqu'un, tu as eu un accident, tu as été stressé par ton patron, tu as truqué. Donc tout ça, tu l'as absorbé sous forme de sensations. Les sensations, la nuit, elles se détendent et elles fabriquent une histoire. Bon, quelqu'un, par exemple, qui est harcelé dans son boulot parce que son supérieur, il veut lui prendre son collaborateur, il veut lui prendre sa place, il peut rêver toute la nuit qu'il est poursuivi par un lion. Ça, c'est juste un transfert. C'est-à-dire que ce qui est vécu dans le concret est transcrit en sensation et dans le cerveau, on travaille. Même un projet de business, si tu travailles bien dessus, avant de dormir, ton cerveau, il continue à travailler la nuit. La Torah aussi. On dit, la nuit porte conseil. En vérité, c'est pas que la nuit, elle porte conseil. C'est que numéro un, psychologiquement, quand tu es plus serein la nuit, donc ton cerveau, il va travailler, mais sans le stress. Numéro 2, c'est que quand tu dis 1, 2, 3, 4, 5, pourquoi quand tu dors, tu crois pas que le cerveau, il peut faire 6, 7, 8, 9, 10 ? Ça va ? Ça, c'est les trois quarts des rêves. Maintenant, après, il y a l'autre rêve dont on essaie de parler ce soir, qui est le rêve prémonitoire. C'est-à-dire qu'Hachem, il t'envoie un message de ton avenir. Maintenant, ton avenir, on a dit, au niveau événementiel, il est déjà inscrit dans le mazal. La Neshama, quand la personne dort, elle traverse les différentes couches, et avant d'arriver à Hachem, elle passe par le mazal. Et dans le mazal, il y a l'étape d'après. L'étape d'après. Ça va ? C'est bon, vous me suivez ou non ? Donc quand elle redescend la personne, elle a un schéma. Maintenant, est-ce que c'est des images qu'elle voit ? Ou est-ce que c'est des schémas de sensation ? Oui ? Ça peut être l'un ou l'autre, c'est pas grave. C'est pour ça qu'après dans la vie, on a ce qu'on appelle la sensation du déjà-vu. Mais tu n'es jamais venu dans ce village de Calabre. Tu n'es jamais venu. C'est la première fois de ta vie. Et tu rentres là-bas, tu es avec ton fils, tu dis, oh c'est bizarre. Et tu dis, écoute mon fils, on va arriver dans le village, tu vas voir, on va tourner sur la gauche, et il va y avoir un café qui s'appelle Leonardo, et en face une église avec le clocher qui est cassé d'un côté. Tu tournes, tu vois le café Leonardo avec l'église cassée d'un côté. Et tu dis, papa, mais tu es prophète? Tu es déjà venu ici? Je te promets, je ne suis jamais venu. Mais cette image, je l'avais. C'est pareil. Des fois, tu rentres dans une Brit Mila, et tu vois un petit vieux comme ça, qui est là, et une dame qui s'énerve. Ah, c'est bizarre, cette scène-là, je l'ai déjà vue. Vous comprenez cette logique-là ? Pourquoi ? Parce qu'en vérité, encore une fois, la réalité physique du monde, on la reçoit au fur et à mesure, mais le schéma électronique de la réalité, il est déjà établi. Comme toi, tu donnes les plans aux Chinois pour qu'ils fabriquent. Le vêtement, il n'est pas encore fait, mais le plan, il est fait. Alors Hachem, il a déjà préétabli les schémas. Tu mets alors encore une fois, ça nous enlève le livre. Mais non. Il a établi les schémas physiques, d'accord ? Le caractère physique des choses, c'est-à-dire l'école, le professeur, les cahiers, les livres. Mais est-ce que tu vas travailler à l'école ? Ça, c'est pas établi, ça. Il te dit, tu vas épouser telle femme. Maintenant, est-ce que tu vas faire du shalom bayit ? Je sais pas. On te dit, on va te donner des enfants magnifiques. Maintenant, est-ce que tu vas les détruire ou est-ce que tu vas les grandir ? C'est ton livre arbitre. Mais les enfants, ils sont fixés. Vous comprenez cette logique ou non ? Voilà. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le rêve prémonitoire, il donne en, entre guillemets, en avance, ce qui va arriver. C'est bon ? Maintenant, la question est de savoir, ce qui va arriver, c'est pluriel ou singulier ?
Ce qui va arriver.
Regardez. Imaginons, je suis là, moi. D'accord ? Je te dis, tu vois, est-ce que tu vois là-bas à 10 mètres ? Dis non, je vois pas. Alors, qu'est-ce que je fais comme ça ? Ah oui, je vois très bien. Ben, il y a un pommier qui est juste à côté d'un fleuve. Oui, et puis les feuilles, elles tombent dans le fleuve. Ah, super. Et quand tu étais là, il dit, bah écoute, là, je ne voyais pas du tout, parce que comme il y a des buissons devant, je ne voyais pas. Mais quand je monte là, je vois. D'accord ? Maintenant, quand je suis en bas, et que je m'imagine qu'est-ce qui peut être là-bas, ce qui est là-bas, c'est pluriel ou singulier ?
Pluriel.
Je répète. Je monte là-haut, je vois, ouais, un pommier au bord d'un fleuve avec les feuilles qui tombent dans l'eau. Ça, c'est singulier, c'est une situation singulière. Elle est une, oui ? Quand je suis en bas, je ne la vois pas, mais je sais qu'elle est singulière, la situation qui va arriver. Quelle différence entre monter et voir, ou faire un rêve et voir ? C'est un angle de vue. Ça va ? Maintenant, la Gemara, elle dit, c'est qu'il y avait un rave, un jour, il a rêvé d'un rêve. Et il a été voir 24 personnes pour expliquer le rêve. Et les 24, ils ont donné chacun une explication différente, et les 24 se sont appliqués. Ils se sont mis en application. Alors tu dis, j'ai un problème. Si le rêve, il est prémonitoire, c'est-à-dire qu'il me dit à l'avance qu'est-ce qui va se passer, ça va ? Maintenant, ce qui va se passer, c'est une chose qui va se passer. Maintenant, je te dis, on donne la possibilité de savoir avant ce qui va se passer. Mais si on lui a expliqué 24 fois et que ça s'est passé 24 choses différentes, donc il y a une question maintenant, est-ce que le futur, il est pluriel ou il est singulier?
Pluriel.
Ah, maintenant, il est pluriel. Maintenant, le futur, c'est le futur par rapport au présent. Mais mon présent, à l'époque de mon passé, c'était mon futur. Oui? Oui ou non? Alors, mon présent, il est singulier ou pluriel?
Pluriel.
Il peut être singulier ou pluriel.
Alors, je ne comprends pas. Tout à l'heure, je vous ai demandé... D'accord,
d'accord. L'événement est singulier, mais les trajectoires sont plus d'une.
Ah, c'est-à-dire, on arrive à un certain résultat. Donc ça veut dire qu'à l'époque de mon passé, mon présent, qui était mon futur, il était pluriel. À l'époque, il était pluriel. Il est devenu un quand je l'ai vécu.
Oui.
Parce que j'ai choisi une des possibilités.
Le
présent,
Le présent, il est singulier parce qu'il correspond à la chose que je vis.
Voilà.
Qui est celle-là, pas les autres 20.
D'accord. Alors, donc, ça,
jusqu'à hier, j'avais 20 options.
J'ai compris. Alors, ça pose un problème. Par exemple, vous voyez toujours dans une situation, il y a 4 personnes, il y a 4 situations. La même histoire, un homme et une femme, vous posez la question, le mari dit ça s'est passé comme ça, la femme elle dit non, ça s'est passé comme ça. Ils vivent dans la même maison. Tu demandes aux enfants, la fille elle a vécu comme ça, le garçon elle a vécu comme ça. Ça fait déjà 4 interprétations de la même histoire. Dans les faits, je parle même pas de l'interprétation des faits. Je parle des faits. Attends, même la personne elle-même, elle en a 4. Par exemple, aujourd'hui maintenant, tu rentres au travail, d'accord? Et toi tu viens pour être naturel, mais tu retrouves devant toi un professeur de ton école à l'époque où tu étais nul. Alors, tu n'arrives pas à être naturellement bon, parce que quand tu es devant lui, tu as le complexe d'être nul. Alors maintenant, tu, par rapport à lui, tu as un malaise, et par rapport à tes patrons, à tes employés, tu vas être affirmatif. Mais par rapport à lui, tu es mal dans ta peau. Alors, je comprends pas, tu le vis deux fois, notre histoire. Ça s'appelle panim. Vous comprenez ou non? L'homme, il a des facettes. Devant ça. Avec les clients, il est très dur. Avec les rabbins, il est très gentil. Avec les enfants, il est très dur. Avec les enfants du voisin, il est très très gentil. Alors je comprends pas, mais t'es combien de personnes toi?
Mais tu es la personne que tu es en cet instant exact.
Oui, mais comment tu fais quand il y a plusieurs comportements?
Il n'y a pas plusieurs.
Dans la même personne?
Maintenant c'est comme ça, dans une minute je peux être un autre, mais maintenant c'est comme ça.
D'accord, donc on dit que c'est rien que des séquences. Super. Alors maintenant, ça c'est on l'a dit par rapport à quoi? Par rapport au rêve. Maintenant après l'interprétation du rêve, on l'a dit c'est quoi? C'est qu'on va poser la question à quelqu'un, on dit dis-moi j'ai rêvé de ça, qu'est-ce que t'en penses? Alors maintenant, la personne, elle va interpréter. Elle va me dire comment elle a compris. Mais elle a compris de quoi? De chez moi. Comment moi, je dois comprendre ce rêve. Ça va? Maintenant, la Gemara, elle dit que le rêve, il dépend de l'interprétation de la personne. Mais je comprends pas. Puisque le message, il m'a été donné à moi, comment ça peut dépendre de l'autre? Donc si l'autre, il dit n'importe quoi, c'est ça, la Gemara, elle dit, choisis quelqu'un qui t'aime. Parce qu'il peut l'interpréter en bien ou l'interpréter en mal. S'il interprète en mal, ça va se passer mal. S'il interprète en bien, ça va se passer bien. Mais je comprends pas. Ce que j'ai rêvé, moi, c'est un message de un événement. Cet événement, il est ou bon ou mauvais. Ouais, mais il peut pas être et bon et mauvais, premièrement. Deuxièmement, comment ça dépend d'un autre? C'est complètement arbitraire, puisque Dieu m'a parlé à moi. Pourquoi l'autre, il doit expliquer et c'est dépend de ce qu'il va dire lui. Et troisièmement, on a dit, quand l'autre, il interprète le rêve, est-ce que ça veut dire qu'il a fait une analyse, il a fait un scanner de comment je suis, comment je me comporte, de mon vécu, de mon entourage, de mon passé psychologique, et par rapport à ça, il pense que l'image que j'ai vécue, elle veut dire ça. Donc c'est analytique, c'est intellectuel. Ou non, même l'idée de l'interprétation, c'est aussi une prophétie qu'Hachem lui a envoyée à lui. C'est à moi, il m'a envoyé un rêve, et à lui, il lui a envoyé l'interprétation. On voit dans Rachid là-bas, ouais. Que Pharaon, par exemple, il avait toujours reçu le rêve et l'interprétation. Les deux, on les voit. Ça va? Après, il a voulu vérifier si Yosef, il savait interpréter les rêves, parce qu'il a vu, il a accepté son interprétation, parce qu'il a vu que c'était la même que celle qu'il avait reçue lui. Pourquoi quand quelqu'un t'explique, tu dis, là, je comprends, et là, tu dis, là, je comprends pas. Quoi, ça va? Maintenant, moi, tout ça, je vous ai donné par rapport au rêve. Mais en vérité, dans la réalité, c'est la même chose. Ben oui, parce qu'il y a des gens qui rêvent, il y a des gens qui rêvent pas. C'est quoi un rêve? Ben, un rêve, on a dit c'est quoi? Alors on a pris le rêve facile quand c'est endormi. Mais le rêve quand t'es réveillé, c'est quoi? Ben ça peut être une illusion, ça peut être une ambition, ça peut être un projet, ça peut être un visionnaire. Tu vois, par exemple, qui aurait pu imaginer qu'un jour, ce petit jeune homme de 20 ans, il allait devenir Microsoft. C'était un rêve. Oui, c'était un rêve. Donc le type, il était là, il est arrivé là-bas. Comment il a... Pour ça qu'on dit toujours, comment on les appelle les hommes d'affaires, les grands hommes d'affaires? On les appelle des visionnaires. Ils ont des visions. Je dis, mais comment tu as des visions? Il a des visions. Le type, il voit des choses. C'est quoi voir maintenant? Et voir, il dit, mais pourquoi là où un il voit, l'autre il ne voit pas? La logique, c'est quoi? C'est qu'il y en a un qui arrive à donner une réalité à son rêve. Et l'autre, il n'arrive pas. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est marqué dans le Rabbi Noubechaye, que le rêve, il est d'une telle précision que quand la personne, elle rêve exactement avec la même clarté et la même netteté et les mêmes sentiments que si elle vivait dans la réalité. Pour ça que même les psychologues, ils posent la question. Ils disent, comment ça se fait que quelqu'un qui rêve, qu'il est poursuivi par un voleur ou par un tueur ou par un lion, il ne meurt pas d'une crise cardiaque? Alors que quelqu'un qui est poursuivi par un lion en vrai, il peut avoir une crise cardiaque. Puisqu'il a exactement la même sensation. Et tu vas dire, non mais ça n'a rien à voir. Là-bas c'est du rêve, et là c'est de la réalité. Ah bon, d'accord. Alors maintenant, oubliez ce que je vous dis jusqu'à maintenant. Oubliez-le, d'accord? Mettez-le de côté. Quand moi je suis dans la réalité, ce que je vois, c'est quoi? Allez, ben c'est la réalité. Mais non. C'est l'interprétation que mon cerveau, il en fait. Je ne sais pas si vous suivez. C'est-à-dire qu'en vérité, comment ça se passe? Moi, je suis vivant comme ça, je bouge tout ça. Ouais. Alors nous, dans la science à 2,30 francs, on croit qu'on assemble des images, les images, on les envoie au cerveau, et le cerveau, il fait une comparaison avec une certaine culture, et il nous rassure en nous disant, c'est ça que tu as vu. Mais en vérité, c'est pas comme ça. En vérité, c'est faux. En vérité, c'est qu'en fait, on est tous des aveugles. On est tous aveugles. Ouais. Et à l'intérieur de nous, on a des capteurs. Et les capteurs, ils nous renvoient quoi? Des sensations. Et la sensation, quand elle rentre à l'intérieur de moi, elle est traduite sous forme d'image. Par exemple, si vous êtes dans le noir, par exemple, vous êtes dans le noir, et puis que vous entendez un bruit bizarre, genre, et vous sentez un frôlement, ouais, et vous voyez le chien. Pourtant, vous êtes dans le noir. Alors, c'est dit la logique. Même quand tu as les yeux ouverts, le chien que tu vois, c'est une image qui est fabriquée par ton cerveau, ouais, à partir des sensations que tu ressens. Ta peur, mélangée avec la vibration, avec le bruit du chien, ça fait fabriquer la tête du chien. Pour ça qu'il y en a un qui va la voir comme ça, et celui qui n'a pas peur des chiens, il va le voir comme ça. Et c'est le même chien. C'est-à-dire que même ta réalité en vérité, Elle a exactement la même nature que le rêve. Donc c'est pas seulement extraordinaire de dire, mais tu te rends compte que le rêve, il est tellement parfait qu'il est proche de la réalité. C'est le contraire. C'est que même la réalité, elle est proche du rêve. Parce que celui qui est convaincu que sa femme le trompe, je peux te dire qu'il va te soupçonner et qu'il va trouver des preuves et qu'il va voir pourquoi elle se maquille, pourquoi elle s'arrange, pourquoi elle se truc. Je comprends pas, mais t'as pas, elle est naturelle, elle est bien. Pourquoi lui, il voit ça? Parce que son soupçon, il lui a mis un filtre. Maintenant, il voit noir. Ouais, celui qui n'a pas confiance dans son fils, il va tout le temps chercher des choses qui vont prouver qu'il avait raison de ne pas avoir confiance. Alors pourquoi les autres ils ne voient pas et lui ils voient? Parce que lui il a mis un filtre et l'autre il n'a pas mis un filtre. Celui qui est mal dans sa peau, il va dire personne ne l'aime. Et il va trouver, il va dire regarde, il m'a pas dit bonjour, il m'a tourné la tête, je me suis approché, la fille comme s'il m'a pas vu. En vérité c'est faux, chacun il avait une histoire. Mais lui, il a fabriqué cette image-là. Alors mes deux maintenant, un optimiste et un pessimiste, ils rentrent dans la même situation, l'autre il dit, oh on a passé une soirée de folie, et l'autre il dit, oh non, tout était coincé. Mais est-ce qu'ils étaient dans la même situation? Ça veut dire que la personne, elle fabrique son image. Elle fabrique. Je vous avais donné cet exemple. Essayez de marcher avec les yeux fermés, vous vous rappelez ça ou non? Oui, non? Ils ne font pas rêver donc. Il faut réviser. Hein? Quand j'étais jeune, je m'amusais à ça. Tu prends une grande avenue, il y a beaucoup de place dans le trottoir. Tu dis, je vais aller de là jusqu'à l'arbre avec les yeux fermés. Et tu marches. Maintenant là, il y a les voitures. Enfin, il y a le trottoir, il y a des voitures. Et là, tu sais qu'il y a des boutiques avec des gens qui marchent. Mais là, il y a un espace. Tu arrives à peu près à fabriquer un espace de 20 mètres sur 3 mètres qui est vide. Et tu marches. Et tu dis, je vais voir si je suis cette rangée de carreaux là par terre. Et tu marches. Avec les yeux fermés. Tu dis, d'accord, mais ça sert à rien. Tu dis, tu vois ton sens de l'orientation. Est-ce que tu arrives à te déplacer sans les yeux ouverts? Quand tu ouvres les yeux, tu dis, oh là là, tu t'es déplacé d'un mètre. Tu t'es pas rendu compte. Tu croyais que tu allais tout, mais en réalité, tu allais un peu de côté. D'accord? C'est pareil. Maintenant, tu peux essayer d'évaluer des situations, mais en évitant de faire avec tes yeux. D'accord ? Ouais, tu vas quelque part et tu fermes les yeux et tu essaies de sentir les choses. Voilà comment tu ressens les choses à l'intérieur. Au lieu d'être influencé par les choses, comment je vous dis l'anecdote comme ça, parce que bon, quand j'avais rencontré ma femme la première fois, je ne l'ai pas regardée pendant 2 heures. Elle croyait que j'étais cinglé d'ailleurs. Au Chidour, ouais. Parce que j'ai fait un calcul. J'ai dit, si elle est magnifique, je ne vais pas l'écouter, donc je ne vais pas prendre à la connaître parce que je vais flasher. D'accord ? Donc, j'ai dit, je ne vais pas la regarder. Donc, je suis rentré, bonjour, bon, j'ai senti qu'il y avait une forme là, parce qu'on m'a dit, elle est là, elle est là. Je me suis assis comme ça, et pendant 2 heures, j'ai regardé de l'autre côté, comme ça. Mais vraiment, elle était là, je l'ai regardée comme ça. Et je l'ai écouté, je l'ai écouté, je l'ai écouté. Et d'ailleurs, elle a dit après, au type qui a fait, elle dit, mais il est malade, ou il a un strabisme, ou il est fou. Il ne m'a pas regardé pendant 2 heures. Et moi, j'avais peur. Parce que j'ai dit, si je place sur la beauté, je vais épouser un poster. Un postero. Un posterior. Un poster. Hein? Oh, Hachem. La deuxième fois, j'ai regardé. Heureusement, parce que c'est là que je suis tombé amoureux, donc il valait mieux pas que je regarde la première fois. Donc j'ai pu entendre l'intelligence, la finesse, l'investissement, la douceur, la réflexion, la responsabilité, la maturité. J'ai entendu tout ça. Mais si j'avais vu, j'aurais arrondi, j'aurais arrangé, j'aurais dit, c'est pas possible d'être magnifique comme ça et d'être bête, sûrement qu'elle doit être intelligente. Bref. Mais c'est dur, hein, quand on a faim. Bon. Alors, donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est pareil. Que quelqu'un, il arrive à fonctionner avec les yeux fermés, ça veut dire quoi? Il veut ce qu'on appelle « ene asechel ». Il veut les yeux de la tête, il veut pas les yeux des yeux. Parce que les yeux des yeux, regardez les meraglim, on les a envoyés, ils ont vu que des malheurs, ils sont revenus, ils ont dit des malheurs, et la chose... Et c'est dangereux, parce que toute l'histoire, elle est marquée. Regardez, c'est un Rashi. Un Rashi, il a résumé 40 ans d'histoire. Il leur a dit, « Chayehem » par leur vie, quand Hachem, il a résumé. « Amarti la Hem Sheitova » Moi, je leur ai dit que la terre, elle est bonne. Et eux, ils veulent envoyer des explorateurs. « Chayehem » Hachem, il a juré, par leur vie. « Shani noten la Hem makom le ta'out bedivrei ameraglim » Oui ?« Kede shelo irshua » Afin qu'ils ne l'héritent pas. C'est-à-dire qu'Hachem, il a dit, ah bon, vous n'avez pas confiance. Vous allez envoyer des explorateurs, ils vont aller. Ils vont voir des choses mauvaises, ils vont revenir, ils vont vous faire peur. Vous allez pleurer, je vais m'énerver, vous allez rester dans le désert et vous n'avez pas hérité la terre. Maintenant, ils ne sont pas encore partis. Alors, ça, tu dis, bah alors, ça veut dire qu'ils étaient condamnés. Parce que l'histoire n'a même pas commencé, elle est déjà finie. Alors, il y a deux. La logique, c'est quoi? C'est qu'en vérité, la vie, elle est courte. Parce qu'on dit, il y a des petits choix et des grands choix. Dans les grands choix, l'histoire, elle est terminée depuis le départ. Vous comprenez ou non? Parce que toi, tu veux te marier avec ce garçon. Tu as senti qu'il y avait des malaises, il était un peu réservé, ou la complexée, ou limite autiste. Mais si c'est pas grave, j'en ai marre d'être chez mes parents, ça me saoule, et puis l'amour, et puis en plus il m'a touché, ça m'a fait quelque chose de ça. Mais maintenant tu restes avec lui, avec ses enfants, avec ses angoisses, avec ses peurs, avec sa dépression. Regarde jusqu'où ça t'a emmené. L'histoire, elle était terminée depuis le début. Parce que tu voulais prendre à droite ou à gauche. Tu te dis, je prends à droite. Alors moi je te dis, mais pourquoi t'as pris à droite? Alors toi, tu crois que ton choix, il a démarré au moment de la décision. C'est faux. Ton choix, il a démarré dans le terrain psychologique dans lequel tu étais au moment où tu l'as pris. Maintenant, ils avaient peur. Comme ils avaient peur, les bénis d'Israël. Ils avaient peur. Comme ils avaient peur, ils ont envoyé l'explorateur. Et quand ils ont envoyé l'explorateur avec la peur, les explorateurs, qu'est-ce qu'ils ont vu? Des choses qui font peur. Et comme ils ont vu des choses qui font peur, ils ont raconté qu'ils avaient eu peur. Donc, ça a augmenté leur peur. Donc, c'est pour ça qu'ils ont pleuré. Et c'est pour ça qu'ils sont restés dans le désert. Ça veut dire que depuis le moment où la personne elle a manqué de confiance, l'histoire était finie. Donc nous, on croit que la vie, elle est longue. C'est faux. La vie, elle est très courte. C'est des séquences. Tac, choum. Tac, choum. Comprenez ou non? Comme à quoi tu penses au moment où la semence, elle sort de toi quand tu conçois cet enfant? Parce que ce que tu es, ce que tu penses, ce que tu ressens pour l'autre, ça s'inscrit dans la semence. Vas-y maintenant. Tout le reste, ça sera de l'éducation. Ça dure à peu près 1/100 de seconde. Ah, mais j'avais la poitrine de la voisine dans la tête. J'étais énervé contre elle parce qu'elle a oublié de payer les impôts. J'étais mal à cause du travail. Je dis, fais gaffe. Tout ce que tu penses, que tu ressens et ce que tu es, ça s'inscrit dans ta semence. Et la semence, tu la mets là-bas. C'est parti, ça démarre. Oh, on y va. Ça démarre. Je regrette, je voudrais. Oh, bah tu vas éduquer, papa. Tout ce que tu n'as pas conçu dans ta tête, tu vas le réparer dans le corps. C'est très facile. Donc la semence de la vie, c'est la pensée. La semence de la vie, c'est la pensée. Le bébé, c'est la réalité. Le bébé, il est là. Et voilà, le bébé, il est là. Ah, tu te plains. Oui, mais tiens, les défauts. Baba, t'es concepteur, oui. Voilà. Fais une mise-va. Ferme-la. T'es pas content? Travaille. Améliore. Discute, évolue. École, Torah, thérapie, ambiance de famille, rapprochement, douceur, gentillesse, intelligence. Fais ce que tu veux, papa, tu as tout le temps. Que tu pouvais faire en 5 minutes, tu vas le faire en 50 ans. C'est comme ça. Parce qu'au niveau de Dieu, il n'y a pas de différence. Parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas de temps. Et la semence, elle vient de l'intérieur. Alors moi, je donne un exemple avec la conception. Mais c'est la même chose. Tu vas faire quelque chose. Bah, tu veux faire un deal. Tu dis, je vais le faire, le deal. Tu dis, tu veux le faire? J'aimerais bien. Ah bon? Mais tu veux vraiment le faire? Il faut bien que je fasse quelque chose. Ah. Et tu dis, mais est-ce que tu as l'argent? Ah, j'en sais rien. Mais non, est-ce que tu sens que tu as les épaules? Eh bien, je vais essayer de m'entourer. Ah d'accord. Et est-ce que tu dois le faire? Eh bien, tout le monde me pousse. Ouh là là. Je te sens léger, là. Vous avez compris? Il y a tout sauf toi. Il y a tout sauf toi. Donc quand tu rentres, après tu dis, ah c'est difficile, il y a des obstacles, il y a des souffrances, il y a des peurs, il y a des malaises, il y a la Inara, il y a du Satan, il y a du... Mais papa, mais toi, t'es parti comment, toi? L'état d'esprit. Pourquoi? Alors pourquoi je fais un parallèle? Parce que là-bas, le Maharal de Prague, non, pas le Maharal de Prague, le Rabbi de Haye, il dit dans le rêve, il dit que le rêve prémonitoire, et comment on reconnaît? Parce qu'il s'appelle, il est Bechizuka Nefesh. Bechizuka Nefesh. Le nefesh, c'est la personne, c'est le psychique. Chizouk, c'est fort. Il est hazak. D'accord? Alors moi, j'ai dit, on fait un parallèle entre le rêve et la réalité. Et aussi dans la réalité, quand quelque chose va se réaliser, alors qu'au départ, c'était qu'un rêve, comment tu sais que ça va se réaliser? Parce que dans ton corps, dans ta tête, dans ton cœur, c'est bechizouk anefesh. C'est fort. Tu dis, je vais le faire. Je vais le faire, ça. Ça, je vais le faire. Ce modèle-là, je vais l'amener jusqu'au bout. Cet enfant-là, il va s'en sortir. Cette école-là, on va la sauver. Cette communauté, on va exploser. Tu le sais. Mais comment tu sais? Tu t'avances, hein? Tu n'es pas un peu présomptueux, un peu orgueilleux? Non. C'est ici, là, ça se passe là. D'ailleurs, oui ou non? Tu dis, je vais le faire. Comment tu sais que tu vas le faire? Ça s'appelle Chizouk HaNefesh. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Tout ça pour vous dire qu'on parle de la réalité ou qu'on parle du rêve. Dans les deux cas, il va s'agir d'un schéma imaginé ou reçu qu'on va projeter dans la réalité. Et comme dans le rêve, et comme dans la réalité, ce qui compte, c'est la force et la détermination qu'il y avait dans le schéma au départ. Quand je voulais acheter la maison, je vous avais dit, là, il m'avait dit, est-ce que tu sens le deal? Vous vous rappelez ou non? Ça vous rappelez? Je voulais acheter un pavillon. Avec ma femme, on voulait acheter un pavillon. Mais moi, j'étais un petit colonel man. Un petit moineau. 125 millions à l'époque. Pour moi, ça veut dire que c'est comme... 75 billions de dollars. Moi, j'avais un petit loyer, 1500 francs. On parle maintenant de rembourser. On a mangé comme propriétaire, on a été chez notaire, on a fait la promesse d'embauche et tout ça, la promesse d'achat. On a commencé les prêts. 7 refus de prêts. Ouais. Alors, on est convoqué par le notaire, la Goya, qui vendait la maison. Elle dit, écoutez, monsieur, on a dépassé le temps. Si vous voulez l'acheter, il faut acheter maintenant. Si vous ne voulez pas acheter, vous voulez encore un délai de un mois, on met 10 000 francs de... Comment ça s'appelle?
Non,
pénal. Oui, ça veut dire que si vous le perdez, au lieu, on ne vous rend pas on vous rend pas tout l'argent de la compte, de la promesse d'achat. Tu perds 10 000 francs. Alors le notaire, c'est un juif très gentil, il m'a attrapé, il m'a dit, monsieur Benchetri. Il a fait sortir tout le monde, il m'a regardé dans les yeux comme ça. Il m'a dit, est-ce que vous sentez le deal? Moi, j'étais nir. Alors, j'ai dit oui. Mais en vérité, je ne le sentais pas. Pourquoi? Parce que j'avais pas pris la carrure mentale, la carrure de dire, maintenant, il faut cette maison. Mais c'était la force des choses. Il y a beaucoup d'enfants, il faut sortir d'un appartement, il faut un pavillon, il faut un jardin. C'est ça, c'est ce qu'il faut. Mais c'est pas ce que tu penses toi. Alors comme toi tu le penses pas, le banquier il est pas convaincu. Et le mazal, il bouge pas. Et on n'a pas eu la maison. D'accord ou non? Et 4 ou 5 ans après, une maison plus chère et plus grande, et j'étais bien. Maintenant j'étais bien. J'ai dit, voilà. Et il n'y en a eu que par miracle. Parce que ça y est, maintenant c'était fini, elle était rentrée dans mon format. C'est bien. C'est comme quand tu mets le costume, tu fais comme ça, tu fais. C'est bon. Tu dis, viens, réessaye-le. Non, c'est pas la peine. Tu fais comme ça, tu fais. Il tombe bien, c'est bon, allez. Quand tu achètes un costume, tu vas pas, c'est 3 heures. Vas-y. Allez, rentre dans le magasin. Ça va, c'est bon. Il dit, je t'en montre des autres. Non, il est bien, je m'en vais. 5 minutes. Il me dit rien, mais c'est pas possible. 5 minutes, t'as acheté. 5 minutes, t'as acheté 3 costumes. 5 minutes. Oh, mais c'est la couleur. Mais... Non, il va bien, il est bien. D'accord. C'est normal un costume, non? Oui. Oui, non? Oui. C'est normal. Et une maison en 5 minutes, qu'est-ce que tu penses toi? Tu rentres comme ça, tu fais comme ça, tu rentres. Tu vois les pièces, tu vois le volume, tu vois la lumière. Tu fais comme ça, c'est bon. Allez, on y va. Monsieur, c'est 260 000 euros. Oui, c'est bon. Allez, on y va. C'est pareil. Tu vois ta femme, tu fais comme ça. C'est bon. Bah écoutez, on va essayer. Tu sais, quand vous dites, ah non, 2 ans, 3 ans, mais là enceinte, réfléchis bien, essaye. Après 4 ans de... Je sais pas si c'est elle, je sais pas si on va bien ensemble. Mais ton cerveau, dans les 16 premières secondes, il t'a dit que c'était bon. Après, il vient et il dit, attends, quand même, il faut pas se marier comme ça, on n'est pas des fous. Mais... Et après, ça coule tout seul. Ça marche tout seul. Si tu forces, tu trucs, les gens, ils viennent écouter, monsieur Rabin, qu'est-ce que vous en pensez? On doit se marier dans 2 semaines, mais ça fait 2 ans qu'on n'arrête pas de s'engueuler. On se connaît depuis 1 an. C'est pas normal, ça doit... Le mazal, ça va tout seul. C'est comme le stylo et le bouchon. Regarde. Tu fais, clac, off, vraiment. Tu commences une phrase, elle finit la phrase. Tu penses une musique, elle te pense la même chose en même temps. Tu as besoin de la voir, elle téléphone. Ah là, tu dis, le bon Dieu, ça y est, il a branché les deux. Comprenez cette logique-là? Eh ben, il n'y a pas de différence, en vérité, entre la femme que tu épouses, le mari que tu rencontres, le business que tu développes et les projets que tu réalises. Il n'y a pas de différence. Alors maintenant, en vérité, c'est quoi? On a expliqué. C'est que quand quelqu'un, il a un rêve. Alors, nous, vous avez compris maintenant, ce n'est pas le rêve du rêve. Le rêve, c'est le projet, c'est la projection, c'est la mission qu'il va accomplir dans ce monde. À chaque fois, ça va dépendre au niveau du cerveau, au niveau de son intériorité, au niveau de son cœur. Est-ce que la chose, elle est forte, chizouk hanefesh, ou elle est faible? C'est la différence entre une opinion et une décision, ou un souhait. Les gens disent, tu veux réussir dans la vie? J'aimerais bien. Non, mais je ne t'ai pas demandé si tu veux une glace. Je t'ai demandé si tu veux réussir. Tu dis, je veux réussir. Ah, bon. Est-ce que ta femme sera heureuse? Oui, je suis prêt à mourir pour ça. Ah, d'accord. Et toi? Ben écoute, pourquoi pas? C'est un peu léger. Comprenez ou non? Est-ce que tu veux que tes enfants ils soient dans la Torah? Oh, si Dieu veut. Et que tu vas faire quoi? Dieu est grand. Ça veut dire qu'il ne va rien faire. Tu as compris cette logique-là? Ça s'appelle Chizouk HaNefesh. Chizouk HaNefesh. Tu prends la pierre, tu la poses bien. Elle est bien. Paf. Elle est calée. Paf. Bien. Elle ne bouge pas. C'est le maçon comment il fait. Il prend la pierre. Il fait bam. Il fait tac, 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 tac. C'est bon. Celle-là, elle va rester 1000 ans. Et l'autre, il fait comme ça. Après, il regrette. Après, il veut mettre une autre. Après, ouh là là, celle-là, elle ne va pas rester. Et chaque acte, chaque choix, il s'inscrit dans une logique. Et c'est solide. C'est solide, virgule. Solide, virgule. Solide, virgule, solide. Alors, il ne faut pas avoir peur. Maintenant, il n'y a pas de différence entre ton passé et ton présent. Maintenant, toi, tu as construit du solide. Ça te fait propre. Tu te retournes pas pour voir? Non, je sais ce que j'ai fait. Il y en a toute leur vie. Oh, j'espère que ça va aller. Oula, pourvu qu'on m'attrape pas. Si on me dit, j'ai préparé déjà un mensonge. Oh, au cas où, toute ta vie, tu traînes des crélois que tu n'as pas réglés. Après, dis, mais j'ai des bonnes raisons. Les bonnes raisons ne donnent pas des bonnes solutions. C'est l'ingénieur. Vous rappelez l'exemple de l'ingénieur? Je sais plus, je deviens gaga. C'est un type qui cherche un boulot d'ingénieur. Il est ingénieur, il cherche un travail d'ingénieur. Mila Shamaïm, il rencontre quelqu'un qui justement cherche un ingénieur. Magnifique. Bonjour. Ah, qu'est-ce que vous faites? Je suis ingénieur. Ah, je cherche un ingénieur. Ah, eh bien écoutez, combien de salaire? 4000 euros. Ah, bah c'est ce que je voulais. 4000 euros, très bien. Quels sont les horaires? 9h, 17h. Magnifique. On est au fin mai. Êtes-vous prêt à commencer demain? Oui, 1er juin, avec plaisir. Il commence à travailler, 1er juin, tata. Enfin, il l'engage pour le 1er juin. Et le lendemain, il l'attend, il ne vient pas. Il ne vient pas le 2, le 3, le 4. Et le 30, il arrive. En costard, comme ça, il descend. Bonjour, bonjour, bonjour. Comment ça se passe pour le chèque? C'est vous? C'est la caisse? Le patron, il dit.
Les Italiens.
Ouais. Alors, il dit, mais attendez, excusez-moi, je ne vous ai pas vu depuis le 1er. Il dit, le 1er. Oh, tu veux où avais-je la tête? Le 1er, mais je suis parti pour aller au travail et je me suis tordu le pied. 2 jours, je suis resté bloqué. Ça fait, on était déjà le 3. Le 3, le 4, c'était le mariage civil de ma fille. On a fait une fête extraordinaire, hein, avec des joies, non, moi. Vous savez comment ça se passe, la crise de foie, 2 jours bloqués, toute la famille, on était mal. Moi, je crois que c'était le saumon qui était pourri, je sais pas quoi. Bon, on a fini les 3 jours de maladie, et ben c'était la choupa. Alors, choupa, quel simcha, quel shikhina extraordinaire et tout. Le shirabrachot, bon, c'est pas très, très pratiquant, mais quand il s'agit de se saouler, on est toujours là. Donc, on a fait les shirabrachot, extraordinaire. Après, on a fini le mariage, en finissant le mariage, on était le 15, la femme a dit, écoute chérie, on a eu beaucoup de pression, c'était très difficile ce mariage, c'était pas simple avec les beaux-parents, avec le mariage et tout. Écoute, on a besoin d'une petite semaine au club. On est parti au club. On s'est détendu, c'était bien. Et puis on est revenu. Et puis ma femme, elle a attrapé une fièvre. Moi, je suis resté à côté d'elle parce qu'elle est très fragile. Et puis elle est sortie de la fièvre. Au bout de 3 jours, elle m'a dit, mais enfin, Maurice, on est le 29. Demain, va chercher ta paye. Et je suis venu. Ça va? Super. Alors le patron, il dit, écoutez, je comprends que vous avez des bonnes raisons d'expliquer pourquoi vous n'êtes pas venu. Il dit, oui, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Mais je ne peux pas vous payer, parce que vous n'avez pas travaillé. J'ai dit, mais je vais vous expliquer pourquoi. Oui, vous avez des raisons, il n'y a pas de problème. À la limite, je vous excuse, je vous comprends, je compatis en un seul mot. D'accord? Mais je ne peux pas vous payer si vous n'étiez pas là. Ça va? Vous avez compris l'allusion ou non? Non, vous n'avez pas compris. Il y a des gens, ils ne font pas ce qu'ils doivent faire. Ils n'investissent pas. Ouais, ils travaillent pas, ils font pas d'efforts. Mais ils préparent la réponse au cas où on leur pose la question. Genre le mec qui fait exprès d'arriver en retard, il dit mais c'est pas grave, je dirai ça. Il ment, après il dit je dirai ça. Oui, il veut pas payer, mais il dit qu'il a pas d'argent. C'est-à-dire que la personne, elle croit que parce qu'elle a une bonne raison pour expliquer pourquoi elle a pas fait, elle va avoir les résultats comme si elle avait fait. Je peux pas. Tu as des bonnes raisons de ne pas éduquer tes enfants. Mais ils ne sont pas éduqués. Tu dis, mais si j'ai des bonnes raisons, normalement ils devraient t'éduquer. Mais non, tu as des bonnes raisons que tu ne les as pas éduqués, mais ils ne sont quand même pas éduqués. Ta femme, elle est malheureuse. Elle est malheureuse, bah, tu ne l'as pas rendue heureuse. Ton mari, il n'est pas heureux. Tu dis, mais tu sais, c'est pas facile, il y a le caractère, il y a le travail, il y a les soucis. Et puis on habite dans un pays où il pleut beaucoup. Mais quel rapport? Maintenant, elle n'est pas heureuse. Donc toi, tu vas lui expliquer pourquoi elle n'est pas heureuse, mais on s'en contre-table. Ce qu'on veut, c'est qu'elle soit heureuse ou qu'il soit heureux. Vous avez compris cette logique-là? Alors, il y a un rave, il avait résumé ce principe en un mot. Il a dit, c'est pas la peine de préparer pendant des années une réponse à une question qu'on ne te posera jamais. Personne ne va te poser la question. Je crois que ta femme, elle va te dire un jour, pourquoi tu ne m'as pas rendue heureuse? Elle sait pourquoi. Tu l'aimes pas, tu veux. Ton mari, je crois qu'il va te poser la question. Il va pas poser la question. Qui? Les gens dans la rue, ils vont venir chez toi, ils vont dire, quand même, tu aurais pu rendre heureux ton mari quand même. Mais non, c'est pourquoi les gens ne vont pas te poser la question? Parce qu'ils ont le même problème que toi. Chacun a le même problème. Donc en fin de compte, il y a 2 solutions. Soit tu vas passer ta vie à préparer la réponse, alors que la question, personne ne te la pose. Soit tu vas passer ta vie à résoudre le problème. Comme ça, tu n'auras plus la question. Yafem. Mjian. Da. Mjian. Super. Maintenant, moi, je reviens avec notre sujet, parce que c'est pas parce que je vous traumatise que je ne suis pas en train de suivre un plan. C'est de dire, tu vois la personne qui prépare une réponse au lieu de trouver une solution. Elle est en train de rêver. Elle rêve que ça marche tout seul. Elle rêve que quelqu'un va assumer. Elle rêve que quelqu'un va... C'est un gros problème. C'est un très gros problème. C'est quand on a des parents qui sont des pauvres types. Quelque part, on est aidé parce qu'on va être obligé d'être bon. Mais quand on a des parents qui sont bons, on a un problème. Parce que soit on va être écrasé par leurs valeurs, leurs qualités, soit on va se reposer dessus. Pas si vous me suivez. Nous, on veut les gâter, on veut qu'ils soient bien, on veut qu'ils manquent de rien. Mais tellement ils manquent de rien, qu'ils font rien. Là, j'étais à Los Angeles. Oui. Ils sont venus me voir après l'autre. Et l'autre, la Beverly Hills, et la Villa Baba, et la voiture, et la Aston Martin, et la Trelloa, et la... Tu sais, il faut que je te parle, j'ai mon fils, il fait que du sport, et toi, bon, l'autre, il est que de la PlayStation, et l'autre... Je dis, mais il me dit, personne, ils ne bossent pas, ils foutent rien, ils sont dans une école, tu leur apprends des valeurs. L'autre, il vient à l'école en Porsche. Il a 16 ans, il vient à l'école en Porsche. L'autre, il vient en Rolls, l'autre, il est déposé par son chauffeur. Tu lui dis, ah, tu sais, il faut travailler à l'école pour avoir des valeurs. Quelle valeur ? Quelle valeur ? Il a la carte noire en métal. La carte American Express noire. Le gosse, il a 18 ans. Je sais pas si tu as compris, c'est-à-dire qu'il peut sortir 100 000 dollars comme ça. Ouais. Ouais, j'ai vu. Bah, au prochain, tu fais pas partie du club, c'est bien. Non, il faut rester simple, sinon on devient cinglé. J'ai dit, bah, tu sais, quand tu mets quelqu'un dans un cocon, ou il devient co, ou il devient.
Un bambage.
Hein? C'est confirmé. Donc ça veut dire quoi? Tu dis, de l'autre côté, tu dis, je ne vais pas me mettre dans la misère pour que les enfants ils comprennent les valeurs. Donc ça veut dire que chacun il a son épreuve. Ouais. Quelqu'un qui est pauvre, il doit éduquer ses enfants dans la joie pour pas qu'ils soient dépressifs. Et quelqu'un qui est riche, il doit éduquer ses enfants dans la simplicité pour pas qu'ils deviennent orgueilleux. Mais il y aura toujours un travail à faire. Vous en faites pas. Il y a toujours un travail à faire. Toujours. Ouais. Comme je vous avais raconté cette famille en Angleterre, ils sont connus à Londres. C'est des milliardaires, ils vivent dans une maison pourrie. Et le père, il a une voiture toute cabossée, comme ça. Les enfants, ils se marient, ils ont 3 à 4. Jusqu'au 5e enfant, ils n'ont pas le droit d'acheter une voiture. Ils sont bourrés, hein. Mais tous les samedis soirs, ils reçoivent les gens. 5000 pounds, 8000 pounds, 10000 pounds, 12000 pounds, ils payent des mariages, ils payent tout l'argent. Les gens, ils disent, mais quand même, donne à tes enfants. Ils disent, non, pourquoi je vais les pourrir? Il dit, mais prends l'argent pour toi. Il a dit, t'as déjà vu un banquier qui prend dans la caisse? C'est pas moi l'argent. Il a éduqué ses enfants comme ça, ils sont tous collés le mal. Et après, jusqu'à 25 ans, 30 ans, et après, il travaille. Mais il est capable, le type, il fait des trucs. Même moi, ils m'ont dit, va chez lui demander. Pourquoi je demande? Tu préfères qu'il donne à des pauvres, à des familles, à des... C'est que le type, il n'est pas dérangé de faire des chèques de 8000 pounds comme ça. Le type qui vient le voir, il a un dossier, il amène des feuilles, il voit les salaires, il voit tout, da. Alors, quand le mariage, 12 mai, d'accord, tiens, voilà déjà, 12 février, pour l'argent pour le traiteur. C'est une éducation. Quelqu'un peut dire, écoute, déjà le maaser, c'est bien. Deux fois le maaser, c'est limite un suicide. Encore une fois, ce n'est pas pour parler d'argent, c'est pour dire, est-ce que quelqu'un, il a des réalités, il a des principes, il a des valeurs, et c'est du concret, ouais. C'est comme si quelqu'un il parle de l'étude de la Torah, il n'étudie jamais. Ben là, il faut arrêter de parler d'étude de la Torah. Il faut parler du marketing, de la cinéma, de... Ouais, on ne parle pas d'étude de la Torah. C'est pareil, quelqu'un il parle de la psychanalyse, et il est psychanalyste et il est psychopathe. Et ouais, bah, le premier à soigner, c'est toi. Oui, il est mal dans sa tête, il est angoissé, il est paranoïaque, il est sûr que les gens lui en veulent et que sa femme veut le détruire et que ses enfants... Je dis, papa, il faut te soigner. Il faut dégager. À demain, alors tu dis, mais ça n'a rien à voir, ça c'est dans mon travail, ça c'est dans ma vie. Ça, et papa, c'est ça, ta réalité. Et ta réalité, c'est quoi? C'est quelque chose que tu projettes. Donc ce que tu projettes, c'est comme un rêve. Alors quelle différence entre un rêve qui est dans ta tête et une réalité qui est projetée? C'est la même chose. Le point commun entre les deux, c'est quoi? C'est Chizouk HaNefesh. On a dit, comment tu sais que c'est un rêve prophétique qui va s'accomplir? Parce que tu l'as vécu avec une intensité qui était forte. Ça s'appelle Chizouk HaNefesh. Maintenant, comment tu sais que ce projet va s'accomplir? Parce que tu l'as vécu avec Chizouk HaNefesh. Il n'y a pas de différence.
Mais il y a parfois des rêves irréels.
C'est normal. Oui, oui, ça c'est
impossible d'arriver.
On a dit que la majorité des rêves, c'est des bêtises. La majorité. D'accord?
Quand c'est un projet, il y a parfois des projets, pas à la mesure de l'homme.
Voilà, c'est pour ça qu'on dit que émettre et mat'im, mat'im ça veut dire adapter. C'est adapter. C'est-à-dire qu'une personne, elle rêve qu'elle va racheter le magasin. Elle rêve pas qu'elle va racheter Ron Poulenc. Sinon, c'est ça la différence entre une ambition et une illusion. Maintenant, chacun, il doit connaître ses mesures. Ouais. Après, c'est quoi? C'est la manière de repousser les limites. Maintenant, si nous-mêmes, on fixe un rêve qui est irréalisable, ça veut dire qu'on veut l'échec. Notre rêve, c'est d'échouer. Comprenez ou non? Comme la Gemara dit, il se lève le matin, il dit, je vais apprendre toute la Torah, tout le Talmud Babli, tout le Talmud Yerushalmi, tout la Braïta, le Sifra, le Sifri, le Midrash, la Braïta, 100 000 livres. Après, il est découragé, il dit, c'est trop, j'ai essayé de faire 5 lignes dans la Gemara, j'ai rien compris, alors la Kabbalah, n'en parlons pas, il fait plus rien. Le Chacham, il dit, je vais apprendre deux lois aujourd'hui, deux lois demain, deux lois, et ça va finir. Et dans le travail, c'est pareil. Tu dis, ah, il y a ça. Non, fais une liste. Le soir, quand tu es détendu, tu fais ta liste, ou le matin, tu te lèves à 5h, tu es tranquille, tu fais ta liste, et après, tu fais check, tac, 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 et c'est fini. Comment ça fait? Eh bien, j'ai commencé, et j'ai fini. Et comment on prépare un mariage? T'en fais pas, checklist. Comment? Eh bien, même pour toi, pour tes midotes à toi, pour travailler. Sur quoi je travaille? Alors, je suis radin, je suis mal dans ma peau, je suis pas net, je suis pas honnête, je suis pas vrai, comment je vais faire? Je vais mourir. Non, papa. Pourquoi le bon Dieu l'a donné 120 ans? Parce qu'il sait que c'est long. Alors, on va étaler les paiements. Comme le crédit. Si cette année, pour Rosh Hashanah, tiens, je vais prendre sur moi, par exemple, si tu es quelqu'un d'hypersensible, si je prends sur moi de réfléchir avant de paniquer. Tu dis, mais j'ai tellement de choses à régler. Oui, mais ça, c'est le miroir, c'est la lentille déformante. Ta sensibilité, elle paralyse tous tes choix. Donc quand tu prends sur toi de réfléchir avant de te sensibiliser, donc déjà tu vas éliminer les trois quarts des problèmes, et en plus ça va faire chez toi un espèce de sevrage, après ça va être comme un paramétrage, un formatage, et naturellement tu vas réfléchir avant, donc tu vas diminuer de 90% la dose de déformation de la réalité. Si tu as réglé ça cette année, tu as gagné 10 ans. Allez, l'année d'après, tu dis, bon, j'ai fixé que je suis capable d'anticiper sur les obstacles avant une situation. Mais si, mais ça ne sert à rien. Fais ça, c'est bien. Comme je vous ai expliqué plusieurs fois, pourquoi le Satan, il s'appelle Satan en français. Ça vous dit quelque chose? Le Satan. Hein? Satan. Non. Parce qu'en hébreu, Satan, en arabe, Shaitan, oui, en français, Satan. Maintenant, j'ai dit, pourquoi le Satan s'appelle Satan? Parce que c'est celui auquel tout le monde s'attend. Bon, c'est un jeu de mots. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'une des forces du Yetzer Hara, c'est quoi? C'est de prendre par surprise. Donc, si tu es Chacham, tu es capable d'anticiper le Satan de la prochaine situation. Par exemple, tu as dit à ta femme que tu rentres à 8h. Oui, et tu habites à un quart d'heure de ton travail. Et à 8h moins quart, au moment où tu vas fermer le magasin, il y a une cliente qui arrive. Elle s'appelle Mademoiselle Satan. Tu dis, mais j'ai pas eu un client de la journée, je la prends. D'accord, mais ça fait 6 fois que tu dis à ta femme que tu arrives à 8h, et ça fait 7 fois que tu arrives en retard. Donc aujourd'hui, faut pas arriver en retard. Alors donc c'est un choix, tu dis, est-ce que je base la cliente, je dis je le vois demain, ou là jamais, ou est-ce que je déçois une fois de plus ma femme? Toi, t'as anticipé. Alors, il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, c'est pas grave, je vais prendre la cliente, et à ma femme, je lui dirai que j'ai crevé un pneu ou là, qu'il y a eu un accident sur l'autoroute. Il a déjà préparé. Mais Avera, Gora est Avera. Donc, quand il rentre, il ment. La femme, elle sent qu'il ment, elle le prend mal. Comme elle le prend mal, elle le jette. Lui, maintenant, il pourrait le prendre bien parce qu'il pourrait dire, mais je sais au fond que j'ai menti. Il dit, non, comment tu me parles? Alors, il s'énerve. Elle sent qu'il est faux, et en plus, il crie dessus. Alors, elle insulte sa mère parce qu'elle t'appelait ou ça fait mal. Il dit, comment tu me parles de ma mère à moi, alors que toute ta famille, c'est des dépressifs. Regarde, comment c'est fait. C'est comment vous savez? Le feu. Pourquoi? Ça a démarré de quoi? Une épreuve. Anticipe le prochain Satan. Oui? Maintenant, chaque situation, il y a la situation A, la situation B, la situation... Quand tu es dans A, tu dois imaginer le Satan de B. Par exemple, il y a eu une interrogation de Guémara ou de Matt, il y a 3 semaines. Ton fils ne t'a pas rendu la feuille. Donc tu sais déjà qu'il n'a pas 19. Sinon il t'aurait sauté au cou. Il t'aurait dit, papa, j'ai 19. Donc il n'a pas 19. Après tu lui dis, mon fils, où elle en est avec l'interro de maths? Il te dit, quel interro? Donc tu sais déjà qu'il n'a pas 14. Après tu lui dis, écoute, trouve-la moi ou je te tue. Il dit, je l'ai perdu. Donc tu sais qu'il n'a pas 8. T'as compris? Donc tu sais déjà qu'il n'a pas 8. Alors pourquoi tu t'énerves quand il prend la feuille? Tu devrais faire le contraire. Tu devrais dire. Déçu. Tu devrais dire. Oui. Tu dis. Tu veux faire comme ça. Étant donné que ça fait 3 semaines et qu'il ne me l'a pas rendu. Donc moi, j'ai déjà fait ce calcul. Donc je sais qu'il n'a pas une bonne note. Maintenant, j'ai 2 solutions. Soit je vais attendre qu'il me donne la mauvaise note et je vais m'énerver, je vais l'insulter, je vais le crier. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre dans la position du gosse qui s'est fait engueuler et c'est pour ça qu'il ne fait rien parce qu'il dit qu'on ne l'aime pas et qu'on n'accepte jamais ses efforts. D'accord? Donc toi, tu dépasses ton rôle, puisque c'est pas ça que tu voulais, et lui, il s'enferme dans un rôle. Donc ça fait 2 brèles. D'accord? Soit tu dis, écoute mon fils, va chercher la feuille, mais quelle va chercher la feuille. Et la note, tu la déchires. Tu déchires le morceau de la feuille. Et tu me l'amènes. Déjà avec le rouge qu'il y a sur la feuille, je peux imaginer à peu près, mais c'est pas. Je dis maintenant, je veux qu'on travaille ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé, mon fils? Alors, il y a 19 questions, tu en as fait 4. On a travaillé 6 heures sur ce contrôle. Dis-moi ce qui s'est passé. Est-ce que tu commences par les petites questions, par les grosses questions? Est-ce que tu as manqué de confiance? Est-ce que tu connaissais le cours? Tu connais pas le cours? Maintenant, ce qui compte, maintenant, je veux travailler avec toi. Je m'en fous de la note. Je veux travailler avec toi. Qu'est-ce qu'on fait? Mais où tu vas trouver cette patience? Et cette force? Et ce recul? Alors que c'est tellement simple. Alors que tu sais qu'elle est mauvaise, la note, puisqu'il ne te l'a pas rendue. C'est tellement simple d'avoir une réaction épidermique, de gueuler et de l'envoyer balader. Alors toi, tu crois que tu as réagi parce que ça t'a déçu. En vérité, c'est comme ça que tu t'es dit pendant 3 semaines, je n'ai pas besoin de m'occuper de lui, de toute façon, je l'ai jeté. Je ne sais pas si vous me suivez. Parce que le Satan, lui, il calcule dans la tête du père, il calcule dans la tête du fils, il calcule dans la tête du professeur, il calcule dans la tête du directeur de l'école. C'est-à-dire que l'enfant, il a déjà redoublé en début d'année. Parce qu'il a déjà calculé. Donc si toi, tu as toujours une étape d'avance, moi j'ai pris des exemples gros, mais dans la vie c'est pareil. Tu dis, je suis énervé là. Là, je suis énervé. Je ne vais pas parler avec quelqu'un que j'aime maintenant que je suis énervé. Faut que je trouve un truc. Je dis, je vais aller prendre une douche. Je vais dire, je suis fatigué, je vais aller dans le lit, je ferme les yeux comme ça pendant un quart d'heure. Oui. Ou je suis très fatigué, comment je vais faire? Alors moi j'ai un truc par exemple, c'est personnel, hein, je vous le donne à vous pouvez l'utiliser. Quand je suis trop fatigué, et je dois rentrer en conférence ou quoi, alors moi, j'ai une personne qui m'accompagne toujours. Bon, il me connaît, il sait que je suis cinglé. Donc, je lui fais, écoute, la première fois, je lui dis, écoute, ne le prends pas mal, hein, je vais faire des trucs bizarres. Il me dit, ah bon, vas-y. Alors, je fais comme ça, je fais. Il a continué en train de conduire. Il fait comme ça, il fait. Ça y est, le rabbin, il est devenu fou. T'as compris ou non? Qu'est-ce que je fais, moi? Je prends les courbatures, je prends la fatigue, je prends les nerfs, je prends tous les coups de fil que j'ai reçus aujourd'hui qui m'ont déprimé et je les fais sortir comme ça. J'ai fait, jusqu'au bout du... Et je rentre dans la salle, je suis tout neuf. Ça marche très très bien. Non, c'est vrai. Des fois, tu as un stress. Si ton fils, il t'a sorti un truc comme ça. Tu dis, je vais le tuer. Alors qu'est-ce que je fais? Tu vas t'allonger dehors, dans l'oreiller. Bon, d'accord. Allez, comment elle s'appelle cette fille? Quel âge elle a? Tu dis, mais tu veux pas me tuer, papa? Écoute, on va parler, hein, qu'est-ce que je te dis. Mais si je t'ai donné la première réaction, toi, tu m'as donné ta lourdeur de gamin, hein, et moi, je te donnais ma réaction épidermique de gamin. Ça fait 2 gamins. Maintenant, je sais qu'au fond, les choses, il faut en parler, il faut discuter, il faut grandir. Mais sur le moment même, c'est trop dur. Alors, c'est ça notre problème. Notre problème, c'est qu'on tue les situations avec le moment même, et après, on passe des années à les réparer. Et vas-y, casse et répare, et casse et répare, et casse et répare. Peut-être on ne casse pas. Comprenez ou non? Peut-être on ne casse pas. Tu dis, on est quand même des êtres humains. On n'est pas des anges. Ah, je te parle pas des anges, je te parle des aménagements. Tu aménages. Oh, non. Tu aménages. Tu vois qu'il est fatigué. Tu ne vas pas le saouler. Tu dis, bon, pas prendre une douche. Non, tu sais. Oh, non, tu vas bien. Moi, je t'adore. T'es mon mari, c'est extraordinaire. Je sais que c'était pas facile. Tu es revenu. Va prendre une douche, va faire un petit hammam. Et viens, prends pas. Détends-toi. Ah, d'accord, chérie. Vas-y, mon cœur. C'est tout, c'est pas la peine. Pourquoi faire? Pour gérer après. Alors, il faut qu'on parle, il faut qu'on règle le problème tout de suite. Pourquoi faire? Tu vois qu'il n'est pas bien. Elle n'est pas bien maintenant. Ouais. C'est comme la femme, elle vient d'accoucher. Elle sort de la clinique, elle est toute pâle comme ça. Ouais. Allez, avance alors! J'en ai marre! Attends, ne me fais pas genre, je suis fatigué, j'ai accouché. Mais c'est hormonal. C'est hormonal. Parce que moi aussi, je suis fatigué. Ça fait 6 jours que je suis avec les gosses, pendant que tu es à la clinique, toi, tranquille, en train de kiffer, et moi, je crève là-bas la Michelin, la dictée, et le ménage, et j'en peux plus, hein. Alors on dit, quand la femme, elle fait une crise hormonale, le mari, il fait une crise morbonale. C'est morbone. Il veut qu'on lui dise, allez, toi aussi, t'es fatigué, c'est pas facile pour toi, tout ça. Il y en a comme ça, ils sont nerveux. Genre, pourquoi la femme, on lui fait les petits soins, et lui, on lui fait rien? Alors que le tigre est à l'accouchement. Eh ben lui, tous les mois, il accouche. 20 000 euros, c'est un beau accouchement. Hein. Toi, tu accouches tous les 9 mois, bon. Chaque saint, il fait ce qu'il a à faire. Ouais. Toi, je te respecte pour ce que tu fais, et toi, tu me respectes pour ce que je fais, et ça va très bien. Maintenant, tu pousses devant toi. Toi, tu pousses tes rêves de businessman, tu pousses tes rêves de Tamit Raham, toi, tu pousses tes rêves de père, toi, tu pousses tes rêves de maman, toi, tu pousses tes rêves de femme d'action, de femme communautaire. Chacun, il pousse ses rêves. Ouais. Le problème, c'est numéro 1, comment tu les pousses, numéro 2, où tu trouves les forces, numéro 3, comment tu sais anticiper les obstacles. Et ça, c'est une force incroyable. Alors, gardez cette image dans la tête, le chasse-neige. Vous avez déjà vu un chasse-neige commencer? C'est les charrues, comment elles font les charrues? Le fer de la charrue, c'est un pointu comme ça, et ça va en s'élargissant. Donc en fait, parce que c'est plus facile de pénétrer dans la terre quand c'est un truc pointu. Donc ça rentre dans la terre, et ça pousse la terre des deux côtés. Ça s'appelle une charrue. Et bien le chasse-neige, c'est une charrue géante. À l'avant, c'est énorme, il y a un bulldozer derrière qui pousse. Tu mets 3 mètres de neige, il rentre dedans, il casse la glace et en même temps il la pousse sur les côtés. D'accord? Et bien toi, ça s'appelle le pouvoir de pénétration de la réalité. Il y a de l'angoisse, il y a des obstacles, il y a des souffrances, il y a des malaises, c'est pas grave. Tu creuses et tu mets sur les côtés. Tu creuses et tu mets. Il n'y a pas un obstacle que Hachem il t'empêchera de régler. Tu creuses et tu avances, tu creuses et tu avances. Ah, maman, tu me dis, comment je pouvais savoir? Je t'ai dit le Satan, tu anticipes. Tu sais que pendant les vacances, tous les enfants vont être à la maison. Donc, il faut redoubler de patience. Parce qu'il y aura plus de nerfs. Tu sais que la fin du mois, c'est difficile. Donc, il faut calmer les choses. Tu sais que le début du mois, il y a plus d'argent. Alors, vas-y, si tu veux faire un petit kiff, fais un petit kiff. Mais il faut aménager. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous? Non, on va être très économe quand il y a de l'argent. Et on va faire des bêtises quand il n'y a pas d'argent. Mais tu fais exprès pour m'énerver ou quoi? Ouais. Toi, t'es un mari qui est très très honnête, tu vas lui mentir. Mais pourquoi? Toi, t'es une femme qui supporte pas le mensonge, tu vas lui mentir. Pourquoi? Tu dis, mais je sais pas, j'ai pas réfléchi, ça m'est sorti de la tête, c'était plus fort que moi. Mais je te dis encore une fois, c'est le Satan. Il faut que tu arrives à le réaliser, à le concrétiser. Le Satan, c'est comme la pluie, c'est comme le parterre. Est-ce que vous avez un doute que le parterre existe? Le parterre, là, vous le voyez ou non? Vous dites pas, c'est une illusion d'optique. Peut-être c'est de la moquette, mais bien faite, hein. On dirait du marbre. Non, c'est du marbre. Et bien, le jour où la réalité du Satan, elle sera aussi concrète que la réalité du parterre, donc vous allez être obligé de vivre avec. Comme quand tu conduis, tu dis, je conduis, j'ai confiance, mais on ne sait jamais, le type à côté, il peut virer. Alors, je tiens le volant. Et la route, elle peut être glissante. J'arrive à un carrefour, je mets le pied sur le frein. Mais je ne freine pas, mais je mets le pied sur le frein. C'est quoi cette logique? Ça veut dire qu'on est conscient. On est conscient. Oui. Mais on n'est pas paralysé. C'est pour ça que je vous avais dit à l'époque, on avait fait un cours entier sur ça, c'est qu'une personne, elle doit avoir la conscience des choses, mais elle ne doit pas avoir le souci. Tu dois avoir la conscience de l'argent, mais pas le souci de l'argent. Tu dois avoir la conscience de l'éducation, mais pas le souci de l'éducation. Tu dois avoir la conscience du Shalom Bayit, mais pas le souci du Shalom Bayit. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est quoi la logique de justement d'aller au bout des rêves? C'est que tu maintiens une dynamique. L'eau quand elle coule, imagine une coulée d'eau de 6 millions de tonnes. Il n'y a rien qui va l'arrêter. Ah, tu dis, mais tu sais, il y a des arbres, il y a des maisons, il y a des rochers, mais c'est de l'eau, baba. Alors imagine-toi maintenant, toi, tu as un projet. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas développer une énergie positive. Et ça, c'est comme de l'eau. Maintenant, le débit de l'eau, il dépend de toi, de ton ouverture. Après, la puissance de l'eau, elle dépend de ta conviction. Après, la direction de l'eau, elle dépend comment tu as préétabli le plan et comment tu penses que Hachem, il va être avec toi. Maintenant, quand tout est établi, la conviction, le projet et comment ça s'appelle, et l'énergie positive, qu'est-ce qui va t'arrêter? C'est pour ça qu'on dit le principal obstacle à l'homme, c'est l'homme lui-même. C'est pour ça qu'on dit Bederer, chez Rotzeleler, Molichinoto. Dans le chemin où il veut aller, on le fait aller. Et c'est ça qu'il faut mesurer. Il faut mesurer la volonté. Il faut mesurer le cœur que la personne elle met à l'intérieur. Il faut mesurer si c'est vraiment quelque chose qui vient de toi, ou alors tu le fais pour un certain statut social, ou à cause du regard des autres, ou pour combler une certaine image aux yeux des autres. C'est ça qui compte. Parce que quand tu le fais pour quelqu'un d'autre, qu'est-ce que tu vas faire quand les gens, ils t'auront dit Hazak? Vous comprenez ça? Comment tu vas faire? Si tu le fais pour l'argent, qu'est-ce que tu vas faire quand tu auras l'argent? C'est mortel. Si tu le fais pour le kavod, qu'est-ce que tu vas faire quand tu auras le kavod? C'est dangereux. Donc il faut que ton projet, il soit toujours plus grand que toi. quand j'étais dans l'avion là, de Los Angeles, je ne sais pas pourquoi, une dame à côté, une médecin, elle me voit comme ça, elle me dit « Qu'est-ce que vous faites? Vous avez l'air quelqu'un de sage ?» Je lui ai fait la barbe, ça pousse tout seul. Elle me dit « Non, non, elle a commencé à me parler et tout. » Elle m'a dit « J'ai écrit des livres. » Je dis « Bah moi aussi, j'ai écrit. » Elle me dit « Ça parle de quoi ?» et tout. Après, je parlais avec elle en médecine. Je dis « Comment vous traitez ça ?» elle voulait beaucoup... C'est une Française, mais elle est beaucoup après à l'américaine. C'est-à-dire, on soigne avec l'esprit, on soigne avec la pensée, on soigne avec les angoisses. Bon. Alors, quand j'ai commencé à lui dire des choses qu'il y a dans les textes et tout ça, elle a arrêté avec les élèves. Elle m'a dit, mais vous voulez pas ouvrir un cabinet et tout ça? J'ai dit, mais j'ai ouvert déjà un cabinet. Combien de clients? J'ai 100 000 à peu près. 100 000? Non, ça veut dire... Alors, après, j'ai réfléchi, j'ai dit, moi, je m'intéresse pas, moi, de faire des trucs pour l'égoïsme. Mais en vérité, c'est 100 fois plus facile. C'est vrai. Le goy, il est comme un fou. Je lui ai dit, celle-là, en 5 minutes, elle voulait se convertir. J'ai rien fait. Elle m'a dit, oh, mais c'est pas possible, mais quelle puissance, quelle... Oh, mais ça résume. Elle m'a dit, alors, elle m'a dit, bah, tout mon deuxième livre, c'est cette phrase. Une phrase, un livre. Okay. J'ai dit, heureusement qu'elle n'a pas lu mon livre, elle va faire une encyclopédie. D'accord. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que quelqu'un, il comprend que la valeur de ce qu'il développe, la valeur de ce qu'il crée, c'est pareil. Toi, quand tu dois savoir pourquoi tu te lèves le matin. Tu te lèves le matin pour rentrer le soir. C'est pour ça qu'on se lève le matin. On se lève le matin pour rentrer le soir. Maintenant, celui qui n'a pas une bonne raison de rentrer chez lui le soir, il doit se demander pourquoi il se lève le matin. L'autre, il se lève le matin pour le travail. L'autre, il se lève le matin pour le compte en banque. L'autre, il se lève le matin pour parler à sa mère. L'autre, il va falloir épouser ta mère. Tu te lèves le matin pour que quand tu rentres à la maison, c'est un père équilibré et avec Emouna et avec amour qui rentre. Pareil pour la femme. Parce que c'est ça le moment le plus important. Le plus important, c'est le moment où le père, la mère et les enfants, ils se retrouvent. C'est ça le plus important. Tout le reste, c'est accessoire. Tout le reste, c'est des bêtises. Tu dis, mais c'est pas vrai, quand on a besoin d'argent, on a besoin... Oui, bien sûr, bien sûr. Là, pour ton épanouissement personnel, oui, bien sûr, il faut de l'argent, il faut se nourrir, il faut aller aux toilettes, tout ça, c'est naturel. Mais c'est pas une raison d'être ensemble. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est cette communion d'être ensemble qui a créé quelque chose. C'est pareil. C'est comme la synagogue. C'est un endroit de communion avec Hachem. Tu dis pas du tout, on se réunit avec les copains, on prend la maria, on rigole bien, ils me racontent des histoires pendant la prière. C'est dommage, va au café. Pourquoi tu vas à la synagogue? Au café, tu peux faire ça. Tu vas au club et vous rigolez bien. On fait un bon tennis, après on prend une bière chacun et on commence à rigoler sur les voisins et les voisines. Mais c'est la synagogue. C'est un endroit de communion avec Hachem. La maison, c'est un endroit de communion. Ouais. Là, j'ai engueulé un type là-bas. Et j'ai dormi chez quelqu'un. Il y avait dans la chambre de son fils, il y avait un écran comme ça. Dans la chambre de sa fille, il y avait un écran comme ça. Elle a 6 ans. Hein. Et dans la salle à manger, dans le salon, à la cuisine. Et à part ça, ils ont un home cinéma, un vrai home, ça veut dire une salle de cinéma, une vraie salle, avec le projecteur HD, baba, et les sièges qui trucs en cuir comme ça. J'ai dit, mais ta vie, c'est devenu un cinéma. Ta vie, c'est un cinéma. Toute la journée, le cinéma. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu triques? Je lui dis, tu m'as mis où dans le casting? C'est pas possible. C'est que les écrans, ils sont tellement grands que les gens, ils n'arrivent même pas à vivre à côté de l'écran. Et un autre, un petit sadique, il m'a dit, monsieur Rabat, je voulais vous dire que j'ai écouté un cours à vous et tout ça. Ça fait 3 semaines, j'ai débranché la télé, j'ai dit à ma femme qu'elle ne marche plus. Parce qu'ils avaient la télé dans la chambre à coucher. Il m'a dit, j'en avais marre qu'on n'a plus rien à se dire. Mais depuis qu'elle ne marche plus la télé, on parle tous les soirs. Dalhaham. T'as compris cette logique-là? C'est qu'en vérité, les gens utilisent... Oui, mais c'est une très bonne qualité d'image. Et puis, il y a des sujets intéressants. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ça, c'est intéressant, c'est que ta vie, elle n'est pas intéressante. Si ça, c'est intéressant, c'est que ton couple n'est pas intéressant. Ben, ça, c'est le Goya, là, dans l'avion. Elle n'arrivait pas à croire que j'ai pas la télé. Je dis, mais comment vous faites sans télé? Je dis, comment vous faites avec vos enfants, vous? Avec les enfants? Tu peux pas. Ça veut dire quoi? C'est que la vie, elle est tellement pleine. Et toi, tu trouves une occasion de la vider. C'est le contraire qu'il faut faire. C'est la remplir. Alors, si ta vie, elle est pleine, t'as pas d'intérêt à toutes ces bêtises-là. Ah, tu dis, c'est pas évident. Alors, je vous dis, la logique, c'est simple. Si vous avez déjà pris une photo, oui. Vous prenez une photo avec un bon appareil. C'est les gros appareils, objectifs. Eh ben, quand tu fixes sur un point, oui, tu fixes par exemple ici,
ouais, et bien tout le reste est flou.
Et si tu fixes ici, tout le reste est flou. Et si tu fixes ici, tout le reste est flou. Ouais, cette logique-là. Et bien ce qu'on appelle en français, fixer des priorités. Mais là, il y a des gens, dans leurs photos, tout est net. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, par exemple, dans la matérialité, ils veulent profiter de tout. Oui. Ou alors, dans les peurs, ils ont peur de tout. Parce que tout est net. Tu dis, mais écoute, maintenant, tu es déjà concentré sur ça. Il ne faut pas t'angoisser sur ça. J'ai peur pour mes enfants. J'ai peur pour l'avenir. J'ai peur pour la panassa. J'ai peur pour le travail. J'ai peur des Arabes. J'ai peur de... Et voilà, tu as toujours peur. Donc, il y a une question qui se pose. Numéro 1, comment tu vas faire pour te sécuriser? Numéro 2, pourquoi ça t'intéresse d'avoir peur? Bah parce qu'une réalité qui dure, ça veut dire qu'elle est entretenue. Donc toi, maintenant, tu peux entretenir ton rêve jusqu'à ce que ta réalité et ton rêve, ils sont exactement la même chose. Ou le contraire, tu peux entretenir le virtuel. Alors les gens, je te dis, l'énergie qu'ils mettent pour entretenir leur dépression, pour entretenir leur névrose, pour entretenir leur peur. Il y en a un, il a soupçonné sa femme. Bon, effectivement, il a vu qu'elle sur Internet, elle parlait avec quelqu'un et tout ça. Je lui ai dit, bon, j'ai bien parlé avec elle, j'ai bien parlé avec toi. Maintenant, je te dis tout de suite, il faut jouer la confiance. Il me dit, oui, mais quand même, il va vérifier, il va truquer. Je lui ai dit, t'as pas compris. Toi, tu soupçonnes. Donc, elle fait la gamine, puisque toi, tu fais le papa méfiant. Maintenant, si tu veux qu'elle se prenne en main et elle dit, écoute, je t'ai donné une parole et je vais faire ce que j'ai dit. Il faut que toi, t'aies confiance. Il me dit, oui, mais j'ai pas confiance. Donc dis-moi, je veux tellement la saouler qu'à la fin, elle va divorcer. Dis-moi ça, c'est mieux, c'est plus clair. Tu dis, mais c'est dur quand, en plus que tu as trouvé. Donc c'est dur d'avoir confiance quand t'as trouvé le contraire. Je dis, mais qu'est-ce que tu as trouvé? Tu as trouvé que l'autre, il t'a trompé, ou tu as trouvé que ta peur, tu as trouvé ta peur? Je ne sais pas si vous me suivez. C'est la planche. Elle fait 10 cm, ouais. Mais pour celui qui a peur, elle fait 3 cm. Et pour celui qui n'a pas peur, elle fait 1 mètre. Donc la taille de la planche, elle n'a pas de réalité. Comment est-ce logique ou non? Donc ça, c'est quoi? C'est, je vous ai donné maintenant les différentes facettes de la situation pour pouvoir la gérer dans le temps, pour qu'elle puisse s'accomplir. C'est que toi, tu as anticipé sur le Satan. Tu fais attention à la qualité de ta décision. D'accord? Rizou Kanefesh. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Tu inondes d'énergie positive. C'est-à-dire quoi? Que tu maintiens tout le temps le mouvement. Et tout ce qui peut éliminer le mouvement, tu l'écartes de chaque côté. C'est pour ça que les rêves, ils se réalisent. Ça va? Ah, les gens disent c'est pas facile, c'est pas évident, c'est pas simple. Mais je vous ai déjà répondu à ça. Je peux pas répéter tout le temps la même chose. Je vous ai déjà dit que ce qui est évident, c'est ce qui est évident. Et ce qui n'est pas évident, c'est ce qui n'est pas évident. Ça va? Si pour moi c'est évident, ouais, et que j'ai confiance en Dieu que c'est évident, et je veux que ça soit comme ça et que ce soit évident, ça va être évident. Et si moi, ma confiance, elle est parcellisée, et mon malaise, et mes souffrances, et mes angoisses, et mes échecs, et mes peurs, et je les mets à l'intérieur, alors c'est pas évident. Et bien, puisque c'est pas évident, c'est pas évident. Toi, tu connais la route, tu connais ta voiture, mais tu roules vachement vite. Je connais ma voiture et je connais la route. Ah d'accord, excuse-moi, bon, ça va. Mais si toi, tu connais pas bien la voiture ou tu connais pas la route et tu roules vite, il peut t'arriver un accident. Oh, c'est pas évident. Oui, mais c'est pas évident que ça va pas t'arriver aussi. C'est normal, parce que tu fais pas corps. J'avais vu une fois un interview sur les pilotes d'avion en Israël. Il disait le pilote, il doit tellement se conditionner dans son appareil que pour lui, le bout de l'aile, c'est son ongle. Il fait corps avec l'appareil. Pourquoi? Parce que c'est pas comme quand tu conduis une voiture. Tu dis, bon, encore, ça devrait être comme ça normalement. Mais là, tu vas à 2000 km/h. D'accord? Les missiles, ils vont à 2800 km/h. Les balles de mitraillette, elles vont à je sais pas combien de vitesse. Tu peux même pas réfléchir. Donc, quand tu fais comme ça, hein, oui, l'aile, elle vient avec toi. Donc c'est comme si tu es tout nu, tu es dans l'air. Toi et ton avion, c'est une seule chose. Mais tu dis, mais il fait 20 tonnes. Mais c'est pareil. Alors c'est pour ça que tes instincts à toi, ils vont réagir à la même vitesse que ton avion. Et ton avion à la même vitesse que l'instinct. Pour ça que les voitures de course, elles ont les vitesses avec des boutons, tom. Des voitures qui roulent à 350 km/h. Parce que ça veut rien dire. Débraye. Le virage, il arrive à 250 km/h le virage. Rien que tu penses à changer la vitesse et tu changes la vitesse, c'est trop tard. Il faut que tu débrayer et penser de débrayer, c'est un peu toc, et elle change de vitesse. Toc, toc. C'est pour ça que tu arrives à faire le virage. Alors maintenant, le problème, c'est à quelle vitesse elle va notre vie. Peut-être notre vie, elle va à 280 km/h. À quelle vitesse elles vont les erreurs? À quelle vitesse elles vont les conséquences? À quelle vitesse il va le bonheur? Peut-être qu'il va très vite. C'est pour ça que je vous ai décomposé tout à l'heure dans le Shalom Bayit. Genre, toi, t'es fatigué, alors l'autre, elle croit que tu fais la tête, elle t'envoie un mot méchant, toi, t'es pour rigoler, mais toi, tu le prends mal, tu lui envoies un mot sur sa mère. Mais moi, je vous ai décomposé. Mais en vérité, ça a pris même pas 3 secondes. En 3 secondes, il y a un esprit de pourri qui s'installe juste en plus la veille de Shabbat. Comme ça, on va passer un Shabbat de pompe funèbre. Chacun va faire la gueule dans son coin. Avec tous les enfants qui paniquent, qui sait qui va crier le premier. Pourquoi? Pour un petit malentendu qui a duré 3 secondes avec le Shabbat. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est beaucoup plus rapide de salir que de nettoyer. C'est beaucoup plus facile de détruire que de construire. Regarde un immeuble. Pour le construire, ça prend 2 ans. Pour les détruire, ça prend 3 secondes. Ils mettent des charges, la dynamite, et... C'est pareil. Ces rêves, en vérité, il faut les construire. Avant de les créer, il faut les construire. Et après, il faut perpétuer cette énergie-là pour que le rêve y tienne. Ça veut dire qu'en vérité, la vie, c'est un rêve. D'ailleurs, les gens qui vivent à fond, ils disent quoi? Déjà 1 an? Déjà 2 ans? Déjà 10 ans? Pas possible, ça passe vite. Les gens qui vivent pas, alors ils ont assez long, ils ont des souvenirs, des ambiances. Mais en réalité, la vie, c'est que c'est comme ça. Pourquoi on fête un anniversaire de mariage? Pourquoi faire? Pour compter les années. De toute façon, tu as pris perpétuité, qu'est-ce que tu veux faire? Tu risques pas de sortir de cette prison, là. Alors, on fête l'anniversaire de mariage pour faire le bilan de ce qu'on a vécu déjà. Tu vas au restaurant avec ta femme, petit chéri, voilà, je vais te dire, tous les combats qu'on a gagnés, voilà, on a ça, on a la solidarité, on a la compréhension, on a la communion, on a lutté contre le complexe, on réagit plus comme des gamins, on n'a plus peur l'un de l'autre, on se parle franchement quand on ressent les choses, ce qui nous fait plaisir, ce qui ne nous fait pas plaisir, on fait le bilan des acquis. Comprenez ou non? Alors là, ça te renforce. Tu dis, ça vaut le coup encore de faire encore cette année. Vous avez compris la logique? Ouais. C'est ça l'anniversaire. C'est de rizouk pour après. Maintenant, moi, j'ai pris par rapport au couple. Mais c'est pareil par rapport aux enfants. C'est pareil par rapport à ton travail. Tu fais un bilan. Tu dis, bon, écoute, ça fait 5 ans que je fais ce modèle. Il faut que je trouve quelque chose pour développer. Tu dis, ah, je t'en prie, ça marche. Mais c'est la mode. La mode, elle plaît cette année. Elle ne plaît pas l'année prochaine. Tu vas faire un million de modèles. Ils sont en train de pourrir là-bas. Comment tu vas faire? Tu dis, c'est plus la mode. Alors, tu vas faire des jupes courtes avec des jupes longues. Tu vas faire quoi? Tu vas faire des bottes avec des espadrilles. C'est fini, c'est des espadrilles. Donc c'est quoi l'idée? C'est que tu as compris que c'est un mouvement. C'est un mouvement. Il y a une perpétuité et un mouvement. Mais avec quoi? Avec des bilans. Donc le bilan, c'est quoi? C'est que tu as choisi un cap. Numéro 2, tu es tout le temps en train de recalculer que tu es toujours dans le cap. Toujours. Ouais. Ça veut dire que toi, tu dis, bon, je travaille, je fais des choses. Attention, je suis un père de famille. Moi, je suis une maman, attention. Je suis un juif, attention. Ah, tu dis, moi, c'est pas évident, il y a les vacances, il y a le stress, il y a la vie actuelle, il y a les arabes, il y a le truc. T'es juif ou t'es pas juif? Peut-être t'es juif. Alors, c'est un axe. Cet axe-là, il bouge pas. Après, le reste, ça va tourner autour, tu vas t'arranger. Ça veut dire qu'en vérité, l'idée que tu avais au départ, elle va s'accomplir plus loin. Donc, cet enfant-là, il a été éduqué avec des valeurs. Ces valeurs, il va les garder toute sa vie. Ah, il ne les garde pas, c'est qu'en fait, il s'est pas imprégné. C'est juste la peinture. C'est un peu comme le déodorant, il faut en remettre tous les jours. Oui, mais ta peau, tu ne vas pas la changer tous les jours. Alors c'est toi. Alors qu'est-ce que tu l'as donné à l'enfant pour être certain que ça va durer pendant 50 ans? C'est pareil. Toi, qu'est-ce que tu as pris en toi, que c'est ça ta métier ou c'est ça ta réalité, que tu sais que ça ne bougera pas? Donc c'est ça aller au bout de ses rêves. C'est qu'en vérité, les rêves, ils sont à l'intérieur de la personne depuis le départ. Et après, l'ambition et le bonheur et la joie et la réalisation personnelle et la relation avec l'infini, c'est ça qui fait grandir. C'est pour ça que quand je parle avec cette dame-là dans l'avion, bon, donc elle n'est pas juive. Alors, je commence à lui dire des choses. À un moment, je lui dis, écoutez, ça, je suis obligé de vous répondre avec des notions qui sont métaphysiques. Elle m'a dit, ah, mais là, je ne suis pas sûr de pouvoir adhérer et tout ça. Je dis, moi, je sais que vous n'êtes pas juif et je sais que vous êtes ignorante et je sais que vous êtes médecin. Donc, moi, j'avais adapté les schémas de pensée par rapport à votre pensée à vous, logique. Mais maintenant, je vais vous donner la vérité. C'est rien du tout ce que je vous ai dit. Elle me dit, ah bon, oui, c'est rien. Je dis, c'est comme un segment de droite et une droite. Je dis, maintenant, une droite, jusqu'où elle va? Il m'a dit, plus l'infini. Je dis, bah, c'est ça. Nous, on pousse la droite. Au bout de la droite, il y a HM. C'est plus l'infini. Ouais? Maintenant, vous, pour vous rassurer intellectuellement, vous arrêtez la droite. Ça, c'est le bonheur. Ça, c'est l'équilibre. Ça, c'est la relation avec l'argent. Ça, c'est l'équilibre, l'équilibre sanitaire, sexuel. Mais pourquoi tu arrêtes la droite? Au bout de la sexualité, il y a le bon Dieu. Au bout de la parnassa, il y a le bon Dieu. Au bout de la joie, il y a le bon Dieu. Au bout de ton couple, il y a le bon Dieu. Au bout de ta femme, il y a le bon Dieu. Mais nous, on continue la droite. Toi, tu arrêtes la droite. Maintenant, moi, ça ne me dérange pas avec une goya. Je lui parle son langage à elle. Je ne cherche pas à la convertir. Je lui donne la logique. Mais nous, entre juifs, on est... Bah, on a bien compris. Ouais. C'est que quoi? Que en vérité, le bout du rêve, c'est Olam Haba. C'est ça, le bout du rêve. Parce que si c'est simplement d'aménager pour avoir une vie sympathique, équilibrée, mais dommage, autant se convertir tout de suite au bouddhisme. C'est très intelligent, c'est très fin, c'est beaucoup de valeur, il y a des profondeurs, et il y a une certaine forme de spiritualité, c'est bien. Mais il n'y a pas d'Olam Haba. Il faut être clair. Oui. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait des gestes, on les aménage, on les remplit, on donne un sens aux choses, c'est vrai, mais on ne perd pas où est-ce qu'on va. On perd pas le fil. Pourquoi? Parce que la question est de savoir, c'est est-ce que le jour où tu vas mourir, eh ben ça sera la fin de tes rêves, ou le jour où tu vas mourir, mais ça va être exactement le fruit de tous tes rêves. Parce que le rêve des rêves, c'est le monde futur. Parce que c'est le spirituel des spirituels, c'est le but des buts. Comme quand tu amènes ton fils sous la roupa, et que tu vois Baruch HaShem, il est sadique. Il est équilibré, il est autonome. Tu dis, j'ai fait mon travail. Ouais, vous crachez. Comprenez ou non? Eh bien ça, ça rentre dans une dimension. Eh bien c'est pareil, le bon Dieu, quand il voit l'homme qui arrive à la fin de sa vie, il se dit, est-ce que ça valait le coup d'investir? Comme nous on fait pour nos enfants. Ouais, cette logique-là, c'est normal. Maintenant, même toi, quand toi tu te regardes toi, qu'est-ce que tu veux? Tu es là pour te faire plaisir ou tu es là pour atteindre des objectifs, atteindre des buts et faire quelque chose de ta vie? Mais tu pourras le savoir qu'à la fin de ta vie. C'est pour ça qu'on dit que quelqu'un, déjà de son vivant, il est Ben Olam Haba. Il est déjà apte au monde futur de son vivant. Pourquoi? Parce que l'Olam Haba, c'est une nature. C'est que quand l'essentiel chez toi, il devient essentiel, ça veut dire que tu vas à l'Olam Haba. Malheureusement, il y a beaucoup de gens chez qui le superficiel, il est essentiel. D'accord? Il y a beaucoup de gens chez qui l'essentiel, il est superficiel. Ils ont de l'essentiel, mais superficiel. Ouais. Il faut que l'essentiel, il soit essentiel. Quand ton essentiel, il est parti de ton essence, ciel, ouais, et qu'en même temps, elle est essence, ciel, c'est-à-dire c'est l'essence du ciel. Donc quand les deux essentialités, ils se rejoignent, il n'y a plus de temporalité, il n'y a plus de matérialité, il n'y a plus de petitesse, il n'y a plus de lourdeur, il n'y a plus rien. Comme le jour quelqu'un, il dit trois fois de suite, il m'a dit, Mera, je dis ça, mais je ne veux pas vous vexer. Je dis, ne te répète pas, j'ai réglé ces problèmes psychiatriques depuis longtemps. Maintenant, on passe à un autre niveau maintenant. On travaille, on évolue. Oui? Je crois qu'on est là, excuse-moi, je m'excuse. Ça va, je t'ai dit que c'est bon. Oui ou non? Tellement les gens, ils sont habitués à vivre au niveau de la moquette, que dès que tu arrives au niveau de la commode, les gens, ils croient que tu es un ange. Mais c'est normal, c'est la vie, il faut bien grandir. Ouais? C'est comme au bout de 10 ans de mariage, tu n'as plus besoin de dire à ton mari, écoute, ça me fait de la peine quand tu parles comme ça. Ça va, s'il n'a pas compris, bah, qu'il aille se soigner, qu'est-ce que tu veux faire? Il a compris. Ah bah c'est bien, toi aussi tu as compris. Tu sais qu'il est quand il est comme ça, il est comme ça, c'est pas la peine de se prendre la tête, c'est comme ça. Tu l'aimes, c'est ton mari, tu fais un avec lui, c'est ta femme, tu fais un. Et bah c'est pareil. Ça veut dire qu'il y a des stades qui sont atteints. Alors tu vois, les rêves, c'est ça. Tu avais un projet, tu l'as réalisé. Alors que ce projet, qu'il soit matériel, qu'il soit spirituel, qu'il soit intellectuel, qu'il soit émotionnel, qui soit mortadelle, quel que soit le projet, oui, du fait même que tu l'as réalisé, donc c'est ce qui va faire que à l'intérieur de toi, il y a un strat de maturité qui a été atteint. C'est pour ça que je vous avais dit à l'époque qu'il faut espoir et réalisation. Rappelez ça. Espoir et réalisation. Sinon, on a espoir et espoir. Et espoir et espoir. C'est-à-dire que moi j'ai un espoir et quand je ne réalise pas l'espoir, on me donne un autre espoir. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'un espoir au singulier, désespoir au pluriel. Le cumul des espoirs non réalisés crée le désespoir. Donc qu'est-ce qu'il faut ? Oui ? Donc il faut toujours un cycle espoir-réalisation. Un enfant c'est pareil. Tu donnes un espoir, mais il faut toujours qu'il y ait un résultat. Même petit, un résultat. Un plus grand résultat. Tu veux ce diplôme. Tu veux finir l'année. Tu veux rester une semaine sans faire le clown à l'école. D'accord ? Dans le couple c'est pareil. Tu es nerveux. Tu dis pas, allez, je prends sur moi, je veux plus être nerveux. C'est impossible. Tu dis, je vais essayer de ne pas m'énerver une journée. Ouais, après tu dis 2 jours, 3 jours, 4 jours. Et je l'ai fait et je l'ai réussi. Toi aussi tu l'as réussi. Regarde chérie, on va pas faire de la chenara pendant 3 jours. Ah c'est pas possible, comment on va faire avec la belle-sœur? Ah oui c'est vrai. Ça. Non, on va le faire. 3 jours, ouais. Maintenant je dis tous les jours je vais te dire que c'est bon ce que tu fais. Mais non, dis-le moi de temps en temps, ça suffira. Non, je vais faire un sevrage, je vais te dire que c'est bon, je vais travailler. D'accord? C'est-à-dire c'est quoi une logique qu'on veut espoir et réalisation. Espoir et réalisation. À ce moment-là, ça, non seulement que le cycle il est infini, et en plus qu'il se nourrit de lui-même. C'est-à-dire qu'en vérité, quand quelqu'un dit « aller au bout de ses rêves », en vérité c'est quoi? C'est que tu dis « mais il faut bien que je m'arrête pour prendre des provisions ». Ne t'en fais pas, parce que la réalisation, c'est elle qui remplit à nouveau le réservoir d'espoir. C'est ça l'autonomie. C'est ça la vraie autonomie. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des rêves, mais ils se nourrissent avec du superficiel. Donc au fond, il grandit jamais. Alors que celui qui se nourrit de l'essentiel, c'est fini maintenant. Maintenant qu'il est mature, vous savez, on dit, on est content, on n'a pas besoin de grand-chose, on n'a pas besoin. Tu prends des vacances à 30 000 euros, tu vas dans un club de malades, et t'as loué une île. En fin de compte, c'est pourquoi? Pour t'asseoir avec ta femme et te tenir la main. Eh bien, tu peux faire ça sur le canapé. Tu mets une boisson fraîche, tu ouvres un peu la fenêtre, il y a un petit peu d'air, tu lui tiens la main, tu lui dis, je t'adore, c'est bon, t'es au Maldives. Euro. Euro. Vous comprenez cette logique-là? Non, il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent aux Maldives, ils louent une île et ils s'engueulent. Ils s'engueulent. 30 000 euros, ça leur coûte. De Humba. Voilà. Donc, ça veut dire qu'en vérité, le bonheur, il est simple, comme la vérité. La vérité, elle est toujours simple. Quand elle devient compliquée, c'est qu'il y a un problème. Alors, j'espère que vous avez compris ce que j'ai dit. Ça va? Parce qu'une fois, il y a un enfant, il a dit à son père, tu sais, papa, j'étais à l'école, mais des fois, je ne comprends pas ce qu'il dit le professeur. Alors, le père, il a dit, quand le professeur, il t'explique et que tu ne comprends pas, dis-lui qu'il répète. Et si la deuxième fois qu'il a expliqué, tu n'as pas compris, c'est que c'est lui qui n'a pas compris. Alors, j'espère que vous avez compris. Si vous avez compris, c'est que moi, j'ai compris. Je ne sais pas si vous... Très bien. Alors, je vous souhaite beaucoup de bien, beaucoup de joie, beaucoup de bonnes vacances, de Yom HaShem. Amen. J'ai pas fini encore l'année, mais à la rentrée, Yom HaShem, on se voit. Regardez, comme c'est les vacances, et que dans le mot vacances, il y a le mot vacant, il ne faut pas que votre esprit soit vacant. Donc, il y a des livres, il y a des CD, il y a des cassettes qui sont à votre disposition. Étant donné que j'en ai marre qu'ils prennent la poussière, donc aujourd'hui, c'est 50%. Je veux que les gens y travaillent, qu'ils évoluent. Et si quelqu'un n'a même pas les 50%, qu'il le prend gratuit. C'est comme ça on refera un nouveau stock pour la rentrée. D'accord? Ce qui compte, c'est que vous... Non, je veux que vous écoutez un cours par semaine, là où vous êtes, ou là à Monaco, ou là à Stresa, ou je ne sais pas où. Allez, bonne continuation. Merci. On peut faire un vitrage.